Et bonjour à tous. On va couper la musique. Ah, je connais ce morceau qui arrive. On se le fera pour la pause café ou pour le raid tout à l'heure. J'allume pas la caméra, on commence tranquillement, on se réveille doucement, il est 9h48. Alors si vous vous réveillez maintenant, c'est cool. C'est que vous êtes dans une journée assez sympa, assez agréable. New David 007, tu es très officiellement le premier sub de la journée et je te remercie pour ce prime. Vous allez bien vous? Ah oui, l'écureuil. Ah, il faudrait que je regarde ça. Ah, l'écureuil nous parle dans le chat d'un documentaire en fait qui a été diffusé en Belgique. Pour commencer, je pense que ça va arriver en France. Merci pour ce sub. Si je dis pas de bêtises, l'écureuil, dis-m'en plus. En fait, c'est un documentaire sur Twitch, voilà, qui a été fait par une équipe de réalisateurs et de journalistes et qui a été diffusé d'abord sur la deuxième chaîne en Belgique. Je pense que ça va arriver en France. Il se trouve, merci Sexitor pour le gentil message qui me dit salut Jean-Luc Reichmann, j'adore ton stream, continue comme ça. Quelqu'un qui m'a enfin percé à jour, puisque ce n'est pas du tout Samuel Etienne depuis le début de cette histoire, c'est Jean-Luc Reichmann. Merci beaucoup Doudoune sans manche, je reconnais ton joli pseudo, merci pour ce 11e mois et donc merci pour ce sub, c'est ce documentaire sur Twitch auquel j'ai participé, j'ai donné une interview très très longue, je ne sais pas ce qui a été gardé d'ailleurs, ce sera la surprise. Je pense qu'il faut qu'on se fasse un react là-dessus en fait. Je pense qu'il faut qu'on se regarde ce documentaire. Ami belge, qui manifestement vous êtes plusieurs, l'avez vu, est-ce que ça allait ou pas ce... Tiens, je vais allumer la caméra quand même. Et bim, attention les yeux, ça allait que moi. Voilà, Jean-Luc Reichmann, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Certains ont vu le documentaire en Belgique. Je remercie les subs qui viennent d'arriver. Amine de place, mais ne t'excuse pas. Merci pour le 7e mois d'abonnement. Tu ne peux pas être là tous les jours. Je le vois, tu travailles, et ben c'est tant mieux. Donc ne t'excuse surtout pas pour ça. Mais moi, je te remercie par contre pour le sub. Footeuse03, j'ai vu ton 9e mois d'abonnement. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, quelqu'un a vu le doc ou pas? Merci à Anne-Naru. J'espère que je prononce bien pour le 2e mois à l'instant. Je vous dis bon anniversaire. Anna Bananas, 30 ans, c'est beau ça. Sandrine 3000, merci pour le 13e mois d'abonnement. Ucho 2900 me dit que son sub ne s'est pas affiché. Écoute, je te remercie quand même, mais effectivement, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Qu'est-ce que c'est que cette. Il y a Défécateur officiel qui écrit dans le chat, il a vieilli Jean-Luc Reichmann. Il a vieilli Jean-Luc Reichmann. Comment ça? Jean-Luc. Ça n'est pas très gentil quand même. Tout va se bien. Est-ce qu'on peut envoyer plein de force à June, qui passe un stress, merde, qui passe un entretien d'embauche ce matin, qui du coup est un peu stressé. On va t'enlever ton stress, on va juste garder la bonne énergie, la concentration, voilà. Concentre-toi sur l'objectif, sur les premiers mots que tu veux prononcer. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en la matière, je crois que l'important c'est de te concentrer sur les deux trois messages idées fortes que tu vas faire passer dans le cadre d'un entretien comme ça, donc d'embauche si je comprends bien. T'as pas 1 000 infos à faire passer, quoi. Tu sais que ta candidature, elle est intéressante, forte, pour deux, trois raisons en particulier, quoi. Garde bien ça en tête et dis-toi, pendant les 5 minutes, 10 minutes, pendant la demi-heure que doit durer cet entretien, je dois faire passer ces trois idées, quoi. Voilà. Il n'y a rien. Et bon, je dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, je me dis ça, puis j'oublie la moitié des choses que je veux dire lors d'un rendez-vous de ce type. Donc, voilà. Mais si tu arrives à faire passer ces deux, trois idées fortes, déjà, c'est pas mal. Donc on ira se voir ce. Faut que je me le note d'ailleurs. Alors merci pour le sub documentaire. Tintin, je me le note pour qu'on fasse une petite soirée réac là-dessus. Je vais aller le voir. Documentaire, petite note pour Sam. Parce que ça va arriver en France en plus, hein. Mais comme j'y ai participé, je pense qu'on peut se faire un petit réac là-dessus pour le sub. Ça va être diffusé sur France Télévisions aussi, mais je sais pas quand. Il faut que je m'en renseigne. Merci Sailing Bag pour le très gentil message. Merci Majo Thune pour les bits. Merci Poetan pour le 9e mois d'abonnement. Merci Charlie Mick pour le 3e mois d'abonnement. Bonne prescription du médecin qui a prescrit à Charlie du Samuel, du stream et du café. Meilleure recette ever. Galactique Hermite, merci pour le 4e mois. De mon Mirail, merci pour ce Prime. Sailing Bag, j'avais pas vu ton sub. Merci pour le 4e mois d'abonnement. J'avais juste vu ton message. Merci à tous. Tiens, je fais passer un entretien d'embauche ce matin, dit Sexiteur, coïncidence. Si ça se trouve, vous allez vous retrouver l'un pour passer, l'autre pour faire passer l'entretien. Sexiteur, si c'est le cas, si tu reconnais notre ami, tu lui donnes le job, bien sûr. Hein. Tu lui donnes le job. Il faut être persuadé que tu es le meilleur et l'entretien est gagné. Conseil de printemps fleuri. Ok? C'est cool ça. Je vous lis un petit peu et on démarre. Il y a quelques petites choses que je veux vous lire ce matin dans l'information. Notamment quelque chose qui n'est pas dans les journaux, puisque ça vient de se produire, une allocution télévisée de Vladimir Poutine à l'intention ben, de tout le monde, des Russes, mais du monde entier aussi. C'est la première fois que Poutine diffuse, comme ça, c'était pas en direct, un discours, une allocution télévisée à la télévision russe. Ouais, c'était ce matin, on l'a vu en direct sur France Info, on ira voir sur les sites d'info les infos à ce propos et ce qu'on peut, ce qu'on doit en penser. Ah, j'ai un retour de l'écureuil sur le documentaire. Merci pour le sub, qui est un documentaire sur l'univers de Twitch auquel j'ai participé. Enfin, participé, j'ai donné une petite interview. Je crois que Ponce. C'est Ponce ou CPA? C'est Domingo ou Ponce qui a donné une interview aussi. J'ai pas encore vu le résultat et l'écureuil me dit, oui, c'était vraiment sympa. Un peu court à mon goût, plus ou moins 1 heure. Sinon, pas trop stigmatisant. Ok, cool. Ils ont montré de nombreux aspects bons et mauvais de Twitch et du streaming en général. Seule chose qui m'a pas plu. C'est une partie où une streameuse fait une généralisation sur le monde du jeu vidéo, comme quoi il y a des idiots, machos, misos, racistes. Ah, vous comprendrez en regardant. Tu étais très bien. Très belle cuisine. Je suis dans ma cuisine? Ah, je pensais avoir donné cette interview à France Télévisions. Peut-être, ok. Peut-être dans ma cuisine. Ou alors ils ont pris un extrait. Ah, Pépin Camille, j'avais pas vu, merci. Hop, 5 abonnements offerts à la commu. Merci Camille, c'est adorable. Et Fouteux, j'avais pas vu. Cuisine. Donc c'est peut-être ça. Ok. Ça y est, il retire ses troupes, docteur Vanel. Bah non, en fait, c'est l'inverse. Ils vont en rajouter, Poutine. Moriar HW, merci pour ce soutien, c'est adorable. Tiens, on est toujours sur les bons conseils pour passer un entretien d'embauche. D'AstraKer m'écrit, je suis du côté de ceux qui font passer les entretiens. Le plus important, c'est d'être soi-même et de montrer qu'on est là par envie et pas par dépit. Bon conseil, l'envie. L'envie, la motivation. Et puis, j'en reviens, les deux, trois messages qu'on va faire passer. Nimrout, merci beaucoup pour ce 10e mois et merci à tous pour ce soutien. Vous êtes super cool. Alors, il y a ce biche de Twitch qui nous donne un autre conseil. Rate ton entretien, en majuscule, point d'exclamation. Le travail, c'est l'exploitation, devient zadiste. Bon, c'est un autre conseil. Effectivement, on est sur autre chose. Est-ce qu'on va parler du discours de Vladimir Poutine? Curios, on va commencer par ça. Voilà. Je vais vous faire un petit sommaire rapide de la presse et boum, on va commencer par Poutine, bien sûr. Mais j'aime bien vous lire au début. Bon cours, Yaminazuki qui passe en coup de vent pour, qui part en cours. L'envie d'avoir envie, l'envie d'aimer. Oui, exactement, c'est ça. Camille Notager, merci pour l'abonnement offert à la commu. Vous êtes adorable. Alors, pour ceux qui l'ignorent, effectivement, le président Poutine a prononcé une allocution télévisée, la première depuis le début de la guerre en Ukraine. Enfin, lui, il ne parle pas de guerre en Ukraine, il parle d'opération spéciale. Quoique, comme il a annoncé la mobilisation partielle du peuple russe, en l'occurrence des réservistes russes, qui est tout à fait nouveau, ce qui est un vrai virage dans ce conflit, peut-être que le président Poutine lui-même ne va plus parler d'opération spéciale, mais bien de guerre. À partir du moment où tu décrètes la mobilisation, certes pas général, mais partiel, en l'occurrence des réservistes, là ça veut dire que clairement c'est un conflit et pas une opération spéciale. Donc on va revenir sur ça, je vais vous faire un petit sommaire quand même pour commencer, ça vous va? Un petit sommaire de ce qu'il y a dans les journaux, le discours de Poutine ne pouvant pas être dans les journaux puisqu'il a commencé à parler, je crois, aux alentours de 8h quelques secondes, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. On y va? J'attends votre go. J'attends votre go. Et on y va. Un go. Ah, j'avais pas compris la vanne. Il y a quelqu'un qui a écrit, il n'y a rien à signer sur Poutine. On peut dire RAS Poutine. Et j'avais pas compris la vanne. Il n'y a rien à signer sur Poutine. RAS Poutine. RAS Poutine. Je survalide. Et en fait, c'est en voyant des gens qui validaient la blague que je me suis dit, j'ai dû louper quelque chose, donc je suis revenu en arrière. Ok, j'ai compris. Ok. Allez, le sommaire. Et juste après ce sommaire, vous êtes dans la matinée Étienne, ici on lit les journaux, on lit la presse écrite parce qu'on kiffe la presse écrite. Et juste après ce sommaire, en 15 minutes, vous dire de quoi on va parler, eh bien on commencera par l'actualité brûlante, cette dernière info, le discours, l'allocution télé de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que j'ai lu dans Le Monde, par exemple, pour vous? Donc, dans son édition numérique hier après-midi, bim, j'ai lu ça. Donc, bah, c'est toutes les affaires d'agression ou de violence sexuelle qui touchent des politiques. Vous avez notamment en une du Monde Mélenchon, affaibli par l'affaire Quatennens, Adrien Quatennens, hein, qui est un des cadres de la France Insoumise, qui est mis de côté là, suite à sa propre déclaration, comme quoi il aurait. Commis des violences sur son épouse dont il est en train de divorcer, notamment une gifle, hein, c'est lui qui l'a dit. Donc Adrien Quatennens mis de côté de ses responsabilités au sein de LFI. Et pour Le Monde, une affaire Quatennens qui affaiblit Jean-Luc Mélenchon, alors notamment en raison du premier tweet qu'il a commis sur cette affaire, qui était plus un tweet de soutien à Adrien Quatennens et qui n'était pas tellement dirigé vers la victime, la femme qui a reçu la gifle. Polémique, nouveau stream 3 heures plus tard. C'est la déformation du streamer. Nouveau tweet 3 heures plus tard, qui cette fois évoquait un peu plus la victime. Trop tard selon certains. La polémique, elle naît de là. Et l'article du Monde est sur le fait que y a très peu de cadres et de membres de LFI qui, comment dire, ont retweeté, ont applaudi, ont soutenu la prise de position de Jean-Luc Mélenchon. Au contraire. Il y a une prise de distance. Donc là, on sent qu'il se passe quelque chose à LFI autour de cette question des violences sexistes parce que et sexuelles, c'est d'abord ça qui est le plus important. On a un dossier dans Libération qui est important là-dessus ce matin, mais aussi sur la place de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est dans Le Monde. Voilà. C'est ce que j'ai lu dans Le Monde pour vous. Hop. Mais évidemment, j'ai plein d'autres choses, notamment... Plus besoin de la tablette, on la met de côté pour l'instant. Faites-moi penser à ne pas oublier le monde tout à l'heure. Je vais mettre ça où? Hop, mettre ça là. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les journaux édition papier, puisque je les ai lus ce matin à France Info. Dans les journaux papier que j'ai ramenés de France Info, on allume la caméra zénitale. J'ai oublié de faire le point, comme d'habitude. Ne bougez pas. On va changer un tout petit peu la mise au point. Tac, on va passer en manuel. Tac, et c'est beaucoup plus net. Voilà, magique. Ingénieur en informatique. Ce matin, dans la presse papier, vous avez ça. Alors, ça faisait plusieurs jours que j'attendais un bon article sur la question. J'ai eu plus qu'un article, c'est un dossier en une du Parisien sur ce qui se passe en Iran, sur le courage, comme le dit le Parisien, la mobilisation de ces femmes, de ces iraniennes, qui, après le décès d'une jeune femme de 22 ans, qui avait été arrêtée pour avoir mal porté son voile, hein, eh bien, ce décès a soulevé une vague de colère en Iran, notamment chez les femmes, notamment chez les iraniennes, qui prennent tous les risques pour manifester, qui brûlent leur foulard, qui bravent la police anti-émeute au risque de se faire arrêter après. Voilà. Donc, je salue le Parisien pour ce dossier sur cette question qui est importante. Alors, c'est intéressant parce que le Parisien, c'est un journal dont la ligne éditoriale est plutôt d'être sur l'info du quotidien, l'info pratique, l'info qui touche les gens, s'intéresse beaucoup au pouvoir d'achat, aux évolutions sociétales, ce genre de choses. C'est pas tous les jours que le Parisien fait sa une sur l'actualité internationale, et donc du coup j'étais agréablement surpris de voir le Parisien faire sa une avec ce très beau titre, très fort, sur le courage des femmes iraniennes. Merci aux Parisiens qui nous donnent pas mal d'infos intéressantes là-dessus. Hop, je remercie UPSA27. Comment vas-tu? 11 mois d'abonnement, le temps passe vite, effectivement. Lily Plus, comment vas-tu? 11 mois d'abonnement aussi. Je vois que des pseudos que je connais bien. Ça me fait plaisir. Merci à tous les deux. Alors ça, c'est à la une de plein de journaux. Violence sexiste qui touche des responsables politiques. La NUP en plein chaos. Un petit dessin intéressant de CAC, ici, qui met Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau face à face. Et alors, un édito, ici, sur les prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur toutes ces histoires. Jean-Luc Mélenchon parce que ça lui ressemble. Alors c'est un édito extrêmement à charge contre le leader de LFI. Alors s'il y a des soutiens de la NUP, de LFI et surtout de Jean-Luc Mélenchon, ça va vous mettre en colère. Bon, l'Opinion, c'est un journal qui est très libéral, qui est très pro-entreprise, qui n'est pas très très proche des idées de la NUP, donc ça n'est pas une surprise. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment un édito vitriol contre Jean-Luc Mélenchon. Je lis différents journaux avec différents regards. Je vous lirai, bien sûr, celui-ci, dossier ce matin sur les politiques confrontées aux violences envers les femmes, et notamment une analyse assez intéressante de Caroline Fourest, l'essayiste féministe, qui essaie de prendre un petit peu de hauteur là-dessus. En vrai, c'est intéressant. Ça, c'est... On est toujours au sommaire, on va vite, hein, je vous donne juste les gros titres. C'est la même actualité qui est à l'une de Libération, voilà. Alors faites pas attention, la une est partagée avec le cinéma, avec Virginie Efira, qui est dans plein de très beaux films en ce moment, qui tourne beaucoup et que tous les réalisateurs s'arrachent un petit peu. Donc il y a un très beau film qui s'appelle Les Enfants des Autres. On ira peut-être voir une bande-annonce d'ailleurs tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ça, violence sexiste et sexuelle en politique, le grand malaise. Voilà. Grand malaise, les derniers déballages montrent combien... Chaque mot est important. Les partis de gauche restent incapables de donner des réponses à la hauteur des engagements affichés. À droite, le déni reste de mise. Je vous résume le dossier, qu'on développera tout à l'heure. Il se trouve que la gauche a des espèces de trucs internes et commissions internes pour essayer de faire la lumière, voire de juger en interne ce genre d'histoire. Voilà. Ça a commencé, je crois, chez LFI. Il y en a à Europe Écologie Les Verts, il y en a chez les socialistes aussi. Voilà. À droite, il n'y a rien de tel. Et du côté de La République En Marche, pour l'instant, rien. Mais je crois que quelque chose arrive. Donc le Conseil de Libération, c'est... À gauche, on s'intéresse à ces questions depuis un moment. Voilà, on les dénonce, ces violences contre les femmes. Ça fait partie du discours politique. Plus que dans d'autres partis, sauf que bah, quand ça les touche directement, eh ben, là il y a de la gêne, là il y a du malaise, entre les discours, entre les valeurs, hein, les discours féministes de ces partis, notamment dans la NUP, et le moment où on est confronté par l'affaire Quatennens pour LFI, par l'affaire Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts, eh bien là, on est gêné. Voilà. Donc, c'est le constat de Libé. Voilà. Ah bah, tout est résumé dans ce titre. À gauche, pourquoi tant de gêne ? On ira ce dossier. On prendra le temps parce que c'est des sujets compliqués. Bon, ça, on va passer très très vite. J'aime bien le Figaro, c'est un journal que... J'aime tous les journaux, moi. Parce qu'ils sont différents. Parce que c'est des regards différents. Des valeurs différentes. Donc, il faut... plus on multiplie les regards, mieux c'est. Mais parfois, il arrive que dans un journal que j'aime bien, eh ben, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à manger, quoi, à lire. Là, je m'en fous. Je m'en carre le cul, mais d'une puissance. 2027, l'après-Macron aiguise déjà les ambitions. On s'en fout. C'est dans 5 ans, bordel, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas, ah là là, mais dans 5 ans, qui ça pourrait bien être ? Ah, la compétition, les appétits qui s'aiguisent. Est-ce que c'est Tartempion qui va prendre le meilleur sur Tartemuche dans le parti X ? Ou bien, est-ce que c'est Tchoupalou qui va prendre... le meilleur sur Barbatruc dans le parti grec. On s'en carre le cul, c'est dans 5 ans. La politique, c'est pas ça, la politique, c'est maintenant. C'est quels sont les soucis d'un pays, quelles sont les réponses des politiques, quelles sont les réponses des gouvernants, quelles sont les réponses de l'opposition. Bordel. Donc ça, on s'en fout, on s'en carre le cul. Hop, voilà. Hop. Donc on lit pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Si, ça intéresse les gens qui pensent à la présidentielle le matin en se rasant, quoi. Mais non, mais en vrai, quoi. Donc ça, on en reparlera, mais dans longtemps. Hein, pour l'instant, on s'intéresse aux soucis d'aujourd'hui. Ah, tiens, ça c'est de maintenant, ça. Je vous ai lu pas mal de papiers ces derniers jours sur le Covid, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas le Covid. Hein. On n'oublie pas le Covid, on en parle de temps en temps, pas tous les jours comme à une époque, mais de temps en temps, petite piqûre de rappel, excellent jeu de mots, où on en est du Covid en France, ok ? Notamment après cet été où c'était un peu cool, où c'était un peu la fête. Donc les dernières infos, qu'on a notamment évoquées sur France Info ces derniers jours aussi, dans la matinale, que je vous recommande, 6h30, 8h30, Canal 27, la meilleure matinale du monde, je fais ma pub de temps en temps, c'est que la 8e vague était là, elle arrivait là, 8e vague avec une hausse du nombre des contaminations en France, par rapport notamment à l'été, elle est là, avec clairement des variants qui sont beaucoup moins agressifs que les variants qu'on a connus sur les premières vagues, d'accord ? Moins d'hospitalisation, moins de décès. Et ça va jusqu'à cette question, est-ce que c'est pas la dernière vague ? Bon, soyons prudents avec ce genre de questions, bien sûr. Est-ce que c'est pas la dernière vague ? Et la Croix est allée voir des spécialistes, des scientifiques, des médecins, des épidémiologistes, et certains en disant on n'est pas loin de la fin quand même. Voilà. C'est quelque chose qu'on entend. Voilà. Les plus prudents disant on n'est pas loin de la fin, mais il faut quand même continuer à bosser, à se protéger, pourquoi pas remettre les gestes barrières en cette rentrée, pourquoi pas pour les plus âgés et les plus fragiles, reprendre une petite dose de vaccin, notamment les vaccins bivalents, hein, qui protègent notamment contre les derniers variants Omicron. Voilà. On fera le point sur le Covid, mais c'est intéressant de voir que certains disent on est peut-être tout près de la fin avant que le truc devienne une espèce de grippe saisonnière. Quoi. Voilà. Alors après, c'est évident, pour certains qui le vivent dans leur chair, ce Covid, notamment le Covid long, ce matin il y avait une d'un journal en région, peut-être le Dauphiné libéré du côté de Lyon et de Grenoble, d'une jeune femme qui a un Covid long depuis 2 ans avec une fatigue extrême. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas oublier le Covid. Et puis je lis le message de Locon71 dans le chat. Le Covid, véritable saloperie. J'en suis à 3 mois d'arrêt. Vous voyez, tout le monde ne vit pas. Pour certains, c'est un rhume quelques jours. Locon est à 3 mois d'arrêt. J'ai toujours pas récupéré. C'est sans compter sur l'impossibilité de prise en charge par le milieu hospitalier pour la rééducation respiratoire faute de place. Bon, je peux te... Là, j'ai eu un proche, très très proche, qui a été hospitalisé ces derniers jours dans un grand hôpital parisien. Le manque de moyens, le manque de lits dans les hôpitaux, je peux vous dire que c'est pas une invention des journalistes. Qu'est-ce qu'on a encore dans l'actualité ? Des choses un peu plus légères. Mercredi, jour de sortie cinéma. Alors, c'est un peu bizarre, mais je ne vous parlerai pas d'économie avec les Échos, non ? Les Échos ont eu un petit coup de cœur pour ce film qu'on a vu en une de Libération, avec Virginie Efira, aussi avec Roche Dizem. Ça s'appelle Les Enfants des Autres. C'est le nouveau film d'une excellente réalisatrice qui s'appelle Rebecca Zlotowski, que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors, il y a un joli jeu de mots, non pas le mal de mère, mais le mal de belle-mère, parce que c'est une réflexion sur la place que peut avoir une femme par rapport à un enfant dans un couple qui n'est pas le sien. Donc je pense que voilà, l'histoire elle est celle d'un homme, Roche Dizem, qui a une petite fille d'un premier mariage, et puis le couple se sépare, et puis l'amour revient entre les personnages joués par Roche Dizem et la très belle et très talentueuse Virginie Efira, dont je suis un peu amoureux, évidemment. Enfin, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Et donc, c'est la question, et je pense que dans la vie, ça doit arriver, ce genre de question. Quelle place doit avoir cette femme qui, par le sang, n'est rien pour cette petite fille, mais qui, en fait, par le temps qu'elle passe avec cet enfant, l'attention qu'elle lui porte, eh bien, devient progressivement une partie de son histoire et de sa famille. Voilà. En l'occurrence, elle se sent presque maman de cet enfant, elle n'est pas la mère. Vachement intéressant, on ira voir la bande-annonce. Ok ? Ah voilà, Sainte Barmine écrit très actuel ce scénario. Je crois, ouais. Je crois. Voilà. C'est vrai, j'aime beaucoup Virginie Efira. Quelqu'un me dit, et Jennifer Lopez. J'aime bien Jennifer Lopez aussi. Mais surtout, j'aime mon épouse. Évidemment. Bon, l'équipe, on passera très vite. Il n'y a pas mille trucs. Il y a surtout un peu de. Voilà, un peu de. Des nouvelles de l'équipe de France. Parce qu'il y a pas mal de mauvaises nouvelles du côté de l'équipe de France. Il y en a deux bonnes quand même, un coin de ciel bleu, c'est le fait que Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouaméni sont en forme, alors qu'on doit jouer là deux matchs, pas en Coupe du Monde, hein, c'est dans deux mois, mais en Ligue des Nations. On peut parler de matchs préparatoires à la prochaine Coupe du Monde. Vous avez France-Autriche demain à 20h45, et puis Danemark-France, c'est quand ça? C'est dimanche, ouais, à 20h45. Voilà, bon, on passera très vite là-dessus. Et puis, alors, je vous le disais, la presse est plutôt tombée en amour avec ce film. Parce que c'est Rebecca, je crois. Zlotowski, vraiment, est une grande réalisatrice. Et ce film est réussi, donc Les Enfants des Autres. C'est à la Une de Libération, c'est dans Les Échos, c'est dans Le Figaro et vous. Mais dans Le Figaro et vous, eh ben, j'ai trouvé un autre film, ou plutôt une série qui arrive. Qui arrive quoi? Qui arrive aujourd'hui ou qui est arrivé hier? Je ne sais plus. Andor, ça vous parle? L'âme rebelle de Star Wars. Donc c'est une nouvelle série dérivée de l'univers de Star Wars, dérivé du film, pour être tout à fait précis, Rogue One. Ça arrive sur Disney+, si je ne dis pas de bêtises, à partir du 21 septembre. On est le 21 septembre, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui! J'ai hâte de regarder, me dit Flich. Andor, sorti depuis une heure, me dit Nico Manga. Déjà dispo. N'allez pas voir. Voilà. Andor, peut-être que certains ont déjà commencé à regarder. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, Le Figaro a bien aimé, voilà, cette série. J'ai hâte de découvrir ça. Alors, je ne sais pas quand, parce que j'ai un emploi du temps dans les prochains jours hyper chargé. Tiens, d'ailleurs, je vous en fais la pub. Demain, un stream un petit peu exceptionnel, puisque demain, il n'y aura pas de matinée Étienne aux alentours de 9h30, 9h45. Je vais remercier les derniers subs dans un instant. Il n'y aura pas la matinée Étienne demain à 9h30, 9h45. Par contre, je donne rendez-vous demain à 11h. Tiens, je vais vous mettre la tablette, je vais vous montrer. Pour un stream 100% sport. Non, Andorre, c'est pas entre la France et l'Espagne. C'est Star Wars. Ne confondez pas tout, ça s'écrit pas du tout pareil. Les blagues dans le chat. Demain, un stream 100% sport à 11h. Voilà, hop, je vous montre, c'est ça. Non, ça va tout marcher, c'est ça. Alors, c'est un truc qui s'appelle Demain. Demain le sport, c'est une grande journée co-organisée par l'équipe, le journal sportif, France Télévisions et France Info la radio. Ça se passe à la Maison de la Radio, ce grand et magnifique bâtiment rond à Paris. Voilà. Une journée, c'est écrit ici, pour imaginer ensemble l'avenir du sport. Vous avez 27 séquences, 27 tables rondes, 6 grandes thématiques, 66 intervenants. Vous avez des grands champions, des grandes championnes, Sarah Abitbol, Théo Curin, Pauline Desrouledes, Tony Estanguet, Christophe Galtier, Vincent Labruni, Estelle Mosty, la boxeuse, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, Michael Phelps. Oui, Michael Phelps, le vrai. Marie-Josée Pérec, voilà. Donc, tous ces grands champions, il y a plein de gens, il y a 66 intervenants, qui sont demain à partir de 10h à la Maison de la Radio jusqu'à 19h, 20h. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait Papy Sam? Eh bien, il appelle son copain Joe. Et on se dit, allez, on déménage le setup, tu prends ton PC, je prends mes lumières, tu prends ta table de mixage, je prends mes micros, etc. On se retrouve à 8h à la Maison de la Radio demain, okay, on installe tout notre setup, voilà, et à partir de 11h jusqu'à au moins 16h30, voilà le stream. Donc ça fait 5h30, putain, ça fait 5h30 de stream, putain, je vais être mort. Pendant 5h30, eh ben on va attraper les invités au fur et à mesure de leur sortie de ces tables rondes pour parler de l'avenir du sport. Et puis de l'actualité du sport aussi, bien sûr. Voilà. Vous serez là demain? Vous venez me voir ou pas? Voilà. Ça va être sympa. Je vais emporter 3 micros, 4 même, c'est vrai que je pourrais avoir 1, 2, 3 invités, voilà. On va parler de plein de sujets, ça va être super. Voilà. Donc ça, c'est demain, donc du coup, je ne peux pas être en vue de presse, je ne serai même pas à la matinale de France Info demain. Donc, gros stream demain. Ce soir, attends, j'ai un truc ce soir aussi. J'ai un truc ce soir aussi, sur la chaîne de Monsieur Poulpe. Allons voir le compte Twitter de Monsieur Poulpe. Hop là, voilà. Hop. Normalement, ça va s'afficher ici. Alors, ce soir, je fais ça. Un petit peu de pub. Il est où, mon Monsieur Poulpe? Tac. Ce soir, 19h, à Perry Game. Donc là, c'est l'invitation de Monsieur Poulpe. Il y aura la grande dame. Il y aura Samuel Etienne, je sais pas qui c'est lui. Il y a Melo Coco, il y a Verino. Un jeu, un quiz. Le nouveau quiz à l'heure de l'apéro, le beau gosse là, en capitaine, c'est Poulpe, bien sûr, c'est Monsieur Poulpe. Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi, je pense que ça va partir dans tous les sens, ça n'aura aucun sens, c'est tout ce qu'on aime. Rendez-vous à 19h sur la chaîne de Monsieur Poulpe. Voilà, un stream. Ouais, on va bien rigoler. N'importe quoi, ça va être n'importe quoi, mais d'une puissance, n'importe quoi. Je vais essayer de pas trop. Ah, il y a Rondemeur qui connaît, il me dit tu verras Samuel, c'est vachement sympa. Ok, super. Donc c'est avec Monsieur Poulpe, donc c'est forcément très très bien. On va essayer de pas trop picoler quand même, parce que le lendemain, j'ai du boulot. Vendredi matin, pas de revue de presse, pas de matinée Étienne, parce que je prends le train, mais genre à l'aube, à 7h du mat. À 7h du mat, avec Joe, destination une ville en région, pour des repérages techniques, éditoriaux, dans un musée. Donc on sort de Paris, on va loin, on prend un train qui nous amène le matin dans ce musée, on discute avec les équipes, on fait un repérage, on teste la connexion avec Joe, on regarde la lumière, on imagine un parcours pour un stream le samedi suivant, une semaine plus tard, le samedi 1er octobre. Voilà. Alors, est-ce que c'est à Lens? Est-ce que c'est à Nice? Hein, est-ce que c'est à Maubeuge? Vous êtes en train de deviner, je ne vous ai pas dit encore, je vous l'annonce, je pense que je vous l'annonce ce week-end. Voilà. Un stream de 3 heures dans un musée en région, on quitte Paris, on est allé au Louvre ensemble en direct, on a fait un stream dans le Louvre qui était que pour nous, on a fait un stream au musée d'Orsay en direct, que pour nous, qui était fermé pour nous, on a fait un magnifique stream dans la fondation Louis Vuitton autour de la collection Morozov. Et ben là, je me suis dit, il fallait qu'on sorte de Paris. Donc, on fait ça samedi 1er octobre, vendredi, repérage. On rentre dardard en catastrophe vendredi, fin d'après-midi, avec l'ami Joe pour l'hebdo Étienne, parce que c'est pas parce qu'on bosse tout le vendredi qu'on va pas faire l'hebdo Étienne. L'hebdo Étienne, dont je vous annonce encore la line-up totalement folle vendredi soir, pour revenir sur l'actualité de la semaine. On aura Sardoche, streamer qui s'intéresse à l'actualité. On a Valérie Damido, oui, la reine de la déco, qui s'intéresse vachement à l'actualité, ça vous le savez peut-être pas. On a, oh, Monsieur Poulpe, on se quitte plus, voilà, qui, je ne sais pas si s'intéresse à l'actualité, je crois que oui. Et qui est surtout prêt à dire n'importe quoi pour nous faire rire. C'est pas beau ça? C'est pas une line-up de fou ça, vendredi? Samedi je me repose, et puis dimanche matin, une petite revue de presse. Voilà. Rien que d'en parler, je suis crevé. Émérante, merci pour le 7e mois d'abonnement et le gentil message. Petite moutre, j'avais vu ton 8e mois d'abonnement tout à l'heure. C'est vous 00, merci pour le 13e mois. Et je crois que Founty a eu ça, je vous ai remercié tout à l'heure. Vous avez vu la semaine de fou, quoi. On peut pas dire que tu chômes en ce moment, Samuel. Body Saint Barmine, ben oui. Tu m'étonnes. On va loin de Paris. Il y a un petit peu de TGV. Voilà. On fait péter le train. Le samedi d'après, on fait péter le train. On fait péter l'hôtel. Parce qu'on sera trop tard le soir pour rentrer. Voilà. Allez, c'est parti. L'info. Il y a une fleur des champs sauvages qui est avec nous et qui dit: je viens de voir sur Reddit que Poutine venait d'annoncer une mobilisation partielle. Samuel, tu peux vérifier l'info? On ne vérifie pas l'info, je te la confirme. Pourquoi? Parce que ce matin, j'animais la matinale de France Info, télé, hein, sur le canal 27, et c'était quelque chose qu'on attendait. En fait, les infos que nous, on avait à France Info, c'était que hier soir, Vladimir Poutine devait prononcer une allocution télévisée, donc pas quelque chose en direct, un discours mais télévisé. Et finalement, ça a été repoussé. Ça faisait plusieurs jours déjà que c'était repoussé. Et en fait, les infos qu'on avait ce matin, c'est que ça pouvait être diffusé ce matin. Et effectivement, aux alentours de 8h, heure de Paris, si je ne dis pas de bêtises, on a eu cette allocution qui a duré, je vais dire une bêtise, 14 minutes de mémoire, qu'on a découvert, qu'on a écouté en direct sur France Info, avec deux questions essentielles, trois. Un, est-ce que Vladimir Poutine allait nous parler aux Russes et au monde entier de la guerre en Ukraine ? La réponse est oui. Deux, est-ce qu'il allait parler des référendums sur le point de s'organiser dans les territoires conquis par l'armée russe en Ukraine ? La réponse est oui. Et allait-il parler d'une mobilisation générale du peuple russe dans cette guerre en Ukraine ? Puisque jusqu'ici, il ne pouvait pas y avoir de mobilisation générale, puisque ça n'était pas une guerre pour Vladimir Poutine, c'était une opération spéciale, une opération avec quelques soldats, vous savez, pour libérer l'Ukraine, pour dénazifier l'Ukraine, pour reprendre les termes du président russe. Donc ça ne pouvait pas être une guerre, puisqu'aux Russes, il avait dit que ce n'était pas une guerre, c'est une opération spéciale. Est-ce que le président russe allait décréter une mobilisation générale pour pouvoir mobiliser plus d'hommes en âge de combattre, puisqu'il n'arrive pas à engranger des succès militaires, au contraire, il commence à reculer en Ukraine. Est-ce qu'il allait faire ça ? Pas tout à fait. C'est une mobilisation partielle. Voilà. Donc je ne sais pas si on n'a pas une vidéo d'ailleurs. Est-ce qu'on a... si on... Bon, ça c'est l'article qui a été publié sur France Info ce matin. Peut-être qu'on a un extrait d'ailleurs. Non. Par contre, on a l'essentiel de l'actualité. Alors qu'a dit Poutine tout à l'heure ? On est vraiment sur l'actu chaude. Hein. Il est 10h20, c'était à 8h ce matin. Voici. Donc Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. Partielle, ça veut dire quoi ? Vous allez voir. Le président russe qui s'exprimait lors d'une allocution télévisée enregistrée ouvre la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine sur Twitter pour annoncer ce stream. Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il s'agit d'un tournant dans cette guerre ? Peut-être. Voici, nous dit France Info, ce qu'il faut retenir de cette intervention. D'abord, Poutine accuse à nouveau l'Occident de vouloir détruire la Russie. Le but de l'Occident est d'affaiblir, de diviser, de détruire de la Russie, c'est ce qu'il a dit au début. Voilà. Les Occidentaux qui ont créé la russophobie. Voilà. Et Poutine qui a affirmé que la guerre... Ah, donc déjà, c'est une guerre. La guerre qui a commencé en 2014 a été lancée non pas par la Russie, mais par l'Occident. Voilà. Donc ça n'est pas Vladimir Poutine qui en 2014 a débuté la guerre dans le Donbass, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Hein, parce que même pour les Ukrainiens, la guerre elle n'a pas commencé il y a quelques mois. Elle a démarré en 2014. Et donc c'est pas Poutine, ce sont les Occidentaux en fait. Bon, on est dans les mots assez généralement utilisés par le président russe. Voilà. Non, c'était pas le Donbass, c'était la Crimée. Voilà. Je savais bien que j'avais utilisé une bêtise. 2014, pour les Ukrainiens, c'est le début de cette guerre, en fait. Moscou annexe la péninsule ukrainienne de Crimée. Voilà. Donc, pour Poutine, qui débute la guerre ? C'est l'Occident. Première info. Okay. Deuxième, la mobilisation partielle des Russes. Donc, Vladimir Poutine annonce une nouvelle étape de l'invasion russe en Ukraine. Ça, c'est important. J'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mobilisation partielle des citoyens en réserve. Info est importante. Mobilisation partielle, quelqu'un me disait tout à l'heure, ça veut dire quoi ? C'est la mobilisation des réservistes, donc des hommes russes qui sont engagés dans la réserve, voilà, qui ont déjà servi, qui ont dans l'armée et qui sont mobilisables parce qu'ils sont réservistes. Voilà. Mobilisation partielle des citoyens en réserve, ceux qui ont déjà servi et qui ont une expérience pertinente. Voilà, le décret est signé, les Russes en âge de combattre et qui sont concernés, donc les réservistes, devront suivre une formation obligatoire. Donc on n'est pas sur une mobilisation générale. Qu'est-ce que ça veut dire mobilisation générale ? Bah, c'est comme, je sais pas, moi, vous prenez la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'est quand un pays dit, bah, tous les hommes en âge de combattre, vous allez à la guerre, vous allez au front, quoi. Mobilisation générale. On n'en est pas là. D'ailleurs, Poutine le précise, nous ne parlons que d'une mobilisation partielle. Voilà. Après, la mobilisation générale peut être une étape suivante, sachant que cette mobilisation partielle est déjà une étape nouvelle dans cette guerre, puisque là, on parle de 300 000 soldats. Voilà, 300 000 réservistes qui vont être appelés. Voilà. Alors là, ça, j'avais pas vu ce chiffre qui est impressionnant. Si Poutine déclarait demain une mobilisation générale, eh bien, ça ferait 25 millions de personnes mobilisables dans le pays. Autre déclaration, quand j'ai quitté France Info, je ne l'avais pas encore, ça, la Russie est prête à utiliser tous ses moyens militaires. Alors attention, parce que ça peut englober bien sûr l'arme nucléaire. Voilà, ah bah c'est extrêmement précis, regardez. Ceux qui font du chantage à l'arme nucléaire doivent savoir que ce chantage peut se retourner contre eux, a-t-il déclaré, alors que les Occidentaux accusent Moscou depuis plusieurs mois de faire peser une menace nucléaire sur la planète. Alors ça, je ne sais pas où il l'a lu, parce que moi je ne l'ai pas lu. Le président russe a dénoncé les déclarations de certains représentants de haut rang des principaux États membres de l'OTAN sur la possibilité d'utiliser des armes nucléaires de destruction massive contre la Russie. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'il y a des pays de l'OTAN qui ont menacé d'envoyer des missiles nucléaires contre la Russie? Ça m'a échappé là, je vois pas bien là. Vous avez la rêve, vous? Moi je crois que non. Alors là, ça c'est nouveau, ça. Non, hein? Romain, non. Il y a Cham qui me dit, il y en a eu, mais uniquement en réponse aux menaces répétées systématiques des Russes. Ok. 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 Ah, et puis l'histoire des référendums, je ne sais pas si vous avez entendu, je vous ai parlé des référendums. Dernière info. Puis après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moscou soutiendra les résultats des référendums d'annexion. Bon, ça, c'était attendu et c'est confirmé. La menace de Poutine résonne d'autant plus fort que des référendums d'annexion par la Russie sont prévus dans les quatre régions ukrainiennes contrôlées actuellement par les autorités séparatistes pro-russes. Donc, les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijja et Kherson. Voilà. Donc, on a des référendums qui vont se tenir a priori. Ah bah si, on a même les dates, du 23 au 27 septembre. Ok, c'est dans quelques jours. Alors ça, c'est aussi très dangereux parce que à partir du moment où ces référendums sont votés par les populations sur place, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces territoires deviennent russes. Hein. On parle de référendum d'annexion. Ces territoires deviennent russes. Donc, toute agression contre ces territoires à partir du référendum considéré comme russe par Moscou, eh bien, entraînera des réponses militaires, à tout le moins un discours en mode, attendez, là vous n'attaquez pas des territoires ukrainiens, vous attaquez la Russie. Donc, si les forces ukrainiennes, par exemple, voulaient libérer ces territoires, hein, aidés par des moyens, vous le savez, militaires fournis par l'OTAN, par l'Union européenne, par les États-Unis notamment, eh bien, Poutine pourrait dire, attendez, attention, là, vous êtes en train d'attaquer la Russie. Donc, ces référendums d'annexion, c'est aussi une info très importante. Ouh, je respire parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup d'infos. Voilà. Et je vous lis maintenant. Crabman, merci pour le 6e mois. Emerante, je prononce bien. Merci pour le 9e, 7e mois et pour le gentil message aussi. Alors, je vous lis sur Poutine. Du coup, c'est perdu pour récupérer ces zones, me dit Sam Loves This Game Barin. Non, après, le combat, les combats militaires vont se poursuivre entre forces russes et forces ukrainiennes, notamment du côté des Ukrainiens pour récupérer ces terrains. Ces quelques terrains perdus par les Ukrainiens, hein, bien moins importants que Poutine en avait rêvé, bien sûr. Après, c'est juste que Poutine va pouvoir, dans sa vision des choses, dire, attendez, maintenant vous attaquez la Russie, quoi. Je vous lis. Des votes avec des militaires russes armés dans les lieux de vote, ça ressemble vachement à la démocratie, écrit Ayael. Comment peut-on envisager des référendums aussi importants en temps de guerre et sans observateurs internationaux? Je pense que même la Chine s'y opposera, Dinen. Alors, sur la première partie de ce que tu as écrit, tu as évidemment raison. Après, la Chine joue un rôle un peu trouble là-dedans, un peu allié de Moscou, mais pas trop non plus, pour pas mettre en danger ses relations commerciales avec les Occidentaux. Business is business, donc la position de la Chine, même là-dessus, on ne sait pas trop. Hein. Je vous lis, c'est très intéressant. Niad, merci pour le soutien, le 11e mois. Grégo Forfun ironise un peu, référendum avec un choix très très large, hein, vous aurez le choix entre rejoindre la Russie ou quitter l'Ukraine. Ah, Chouba nous donne une autre info importante, référendum dans les territoires où une partie de la population a dû fuir, donc aucune légitimité. Voilà. BC Muche, juste au-dessus, 60% des civils sur place dans ces régions ont quitté leur territoire. Qui va voter du coup? Voilà. Les Ukrainiens ont déjà fui à l'ouest, il reste que des Russes, écrit Dromadaire. Vous êtes tous sur un peu cette analyse qui est intéressante. Hein. Snail Priest, quelle valeur vont avoir ces votes s'ils se passent dans des régions contrôlées par l'armée russe? Parodie démocratique, ainsi de suite. Alors, moi j'ai vu des commentaires tout à l'heure sur. J'ai fait un post sur Twitter pour annoncer le fait qu'on allait parler de ça. Et j'ai vu des commentaires assez intéressants d'ailleurs. Hop, je vous montre. J'ai vu quelques commentaires intéressants. Voilà. Il ne lui reste que ça pour peser dans d'éventuelles négociations. Hop, est-ce que je peux. Hop. Voilà, un peu grossir. Voilà. Alex, qui semble suivre cette guerre avec beaucoup d'intérêt. Non, les troupes mobilisées ne seront pas opérationnelles avant 6 mois. Ok, ça c'est une info que j'ai pas. De plus, déjà qu'avec des volontaires, le moral et l'envie de combattre sont plus bas. Alors avec des soldats forcés à combattre, l'impact sera quasi nul. C'est intéressant. Sans oublier la baisse de qualité du matériel russe. Commentaire intéressant. Ah, c'est le commentaire de Florian aussi que j'ai vu tout à l'heure que je trouvais pertinent. Il est important aussi de comprendre le timing de l'allocution de Poutine. En ce moment, il y a l'Assemblée Générale de l'ONU et dans quelques jours, le référendum du Donbass. Tout est lié. C'est peut-être le début de l'escalade, mais c'est peut-être aussi du chantage. Et je trouve que Florian, il résume très très bien là où on en est. Est-ce que, comme je posais la question ce matin, est-ce que c'est un virage, c'est un tournant dans cette guerre avec plus de soldats, plus de moyens, voilà, plus de victimes militaires ou civiles, voilà, et un conflit qui va durer encore plus longtemps avec les Occidentaux obligés de remettre des moyens, etc. Ou est-ce que c'est du chantage. Voilà. Donc je trouvais que c'est certains de ces commentaires assez intéressants. Je continue à vous lire. Depopman écrit, la Russie accuse toujours ses ennemis des choses qu'elle commet elle-même. Accusations de massacre, d'attaques sur les installations nucléaires, de menaces d'envahissement. Par rapport aux accusations de Poutine au début, hein, qui accusait les Occidentaux d'avoir commencé cette guerre en 2014 en Crimée. Les Russes sont-ils d'accord avec cette mobilisation? Est-ce qu'ils ne peuvent pas dire non? Qui de jungle? Alors, ce que pense la population publique russe, pardon, c'est très compliqué, parce qu'en fait, on n'est pas on peut pas dire que ce soit dans un état de droit idéal, on ne peut pas dire qu'il y a une liberté de la presse aujourd'hui en Russie. Donc, ce que pense l'opinion publique russe, en fait, on ne sait pas bien. On suppose, quand même, parce qu'il y a des enquêtes, voilà. On suppose qu'une partie non négligeable de la population russe est derrière Poutine, notamment peut-être parce que les informations qu'elle reçoit sont contrôlées et qu'il y a une forme de propagande qui peut être efficace, et aussi peut-être parce qu'une partie des Russes sont persuadés qu'ils sont dans leur droit et que Poutine est dans son droit, voilà, avec ce projet de la Grande Russie. Et puis on sait aussi qu'il y a une partie des Russes qui sont opposés à la politique de Poutine et qui rêvent d'un autre dirigeant, voire d'un autre régime, mais ceux-là, ils peuvent assez difficilement s'exprimer. Donc, sont-ils d'accord? Ça, c'est une question difficile. Est-ce qu'ils peuvent dire non? La réponse, là, est non, ils ne peuvent pas dire non. On ne leur demande pas leur avis, quoi, en l'occurrence. Je vois beaucoup de commentaires extrêmement intéressants, et je vous en remercie. Je lis les derniers messages, et puis on enchaîne, hein, puisqu'on va s'entendre parler... demain, je ne peux pas trouver de presse. Bien sûr. J'aime bien le message de Tic Tac Dring. Ne mélangez pas les gens russophones avec les pro-russes. Les russophiles ne sont pas tous pro-russes. Bien sûr. Poutine a complètement matrixé les cerveaux. Voilà, lorsqu'il parlait des Russes pro-Poutine, dans les campagnes principalement apparemment, car aucun accès à des infos extérieures. J'ai lu des articles en ce sens, disant que dans les grandes villes où l'information circulait un peu plus, il y avait moins de gens pro-russes, voilà, et que plus la ville était petite, voire dans la campagne, et moins l'info parvenait, d'infos diverses, et plus la propagande jouait à plein. Ouais. Je vous lis. C'est Gromitsama qui dit la même chose. Les campagnes seraient pro-Poutine alors que les villes plus informées seraient plutôt contre. Ok. Info à vérifier, info chat. Mister Reset donne cette info avec beaucoup de prudence. Depuis les annonces de Poutine de ce matin, les Russes se ruent sur l'achat de billets d'avion pour aller en Turquie et Arménie pour ne pas être enrôlés pour les réservistes potentiels. Info à vérifier, mais intéressante. Cham, cham, lam, renchéri. En me disant que les deux recherches sur l'internet russe actuellement, les plus populaires en ce moment, sont les termes mobilisation et comment quitter la Russie. Ok. Gua, caramel. Oh, j'avais pas vu. Merci pour ton prime. Merci Nied pour le 11e mois aussi, j'avais pas vu. Oui, tout à l'heure, j'utilisais le mot chantage, Cibourg, et j'étais pas tellement content de ce mot que je trouvais dans l'article. Je pense que, ou plutôt dans le commentaire d'un internaute tout à l'heure, je pense que le mot bluff est plus juste que chantage, tu as raison. Voilà. Voilà pour écouter ben, cette info. Hein. Voyons s'il y en a d'autres. Peut-être des réactions, non? Peut-être avoir des réactions peut-être à ce discours. Bon, là, vous pouvez. C'est une info d'hier, mais qui n'est pas inintéressante. Donc en ce moment, il y a. L'Assemblée générale des Nations Unies, hein, avec la plupart des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Vous avez un discours d'Emmanuel Macron, vous avez peut-être entendu, qui date d'hier, qui a dénoncé à propos de la Russie un retour à l'âge des impérialismes. Hein, il a dénoncé le nouvel ordre de division que cherche à imposer la Russie impérialiste avec la guerre en Ukraine. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir s'il y a des réactions ce matin. Je sais où je vais aller. Des réactions à ce discours de Poutine. On va aller sur le site du Figaro, qui a un truc intéressant, qui a les dernières dépêches, les dernières actualités dans un petit coin là, à droite, vous voyez là. Voir tous les flashs d'actualité, c'est bien foutu ça. Pour avoir les dernières. Alors c'est très sec, hein, c'est des petites, quelques infos comme ça. Mais les dernières infos, vous les avez ici. Et s'il y a des réactions à Poutine, vous allez les voir là. Voilà, pour exemple, la réaction du Jordan Bardella, le RN, aux affaires Quatennens et Bayou, par exemple. Là, c'est le naufrage moral de la gauche. Ça, on en parlera tout à l'heure. Quatennens, qui était notre invité sur France Info à 8h30 ce matin. Est-ce qu'il y a des réactions au discours de Poutine? Pas là, en tout cas. Ah, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on en aurait déjà. Oh, c'est bizarre, d'ailleurs. Bizarre, bizarre. Bon, je vais faire un petit crible actu, Poutine, moi. Réaction. Ouais, c'est quand même bizarre. À moins qu'on soit un peu prudent dans les capitales occidentales. Bizarre. Ouais, ok. Bizarre qu'on n'en ait pas plus. Ok, bon. Vous en avez vu ou des réactions? Déjà? On va passer au reste de l'actualité. Ah, ma souris. Ma souris de gamer. Qu'est-ce qui se passe? Mais. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de jouer. Mais oui, il y a des milliards de messages. Ok. C'est bien parce que vous débattez vachement entre vous aussi, c'est cool. Ah, quelqu'un me demande d'actualiser la page du Figaro, puisque la dernière news était sur la Russie, on va voir. Je pense. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réactions quand même. Tchouk. 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 Non, bah non, c'est les infos qu'on vient de voir, quoi. Non, non, j'ai pas de réaction intéressante là. On a juste ce qu'on a lu sur France Info. Ok. Allez, je lis encore deux messages là-dessus, et on enchaîne avec le reste de l'actualité. « Sexitor, plan de Poutine. 1. Faire un référendum truqué pour annexer les territoires. 2. Réquisitionner les volontaires. 3. Dire que l'Ukraine attaque les territoires libérés et déclarer la guerre. Ouais, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, un dernier commentaire. Hein, quoi? Ça veut rien dire. NaQZU82. On s'est pas bien compris. Qui écrit les réactions sur le Figaro MDR. Ils sont subventionnés comme les autres par le gouvernement, lol. Bon, alors, voilà quelqu'un qui ne lit pas bien la presse française. Alors, si tu trouves que le Figaro a un discours pro-Macron, si tu trouves que Libération a un discours pro-Macron, si tu trouves que l'Humanité a un discours pro-Macron, si tu trouves que La Croix a un discours pro-Macron, bon, je pourrais continuer comme ça. Donc, les subventionnés par le gouvernement, alors il faut distinguer les subventions de l'État pour soutenir les médias qui économiquement sont fragiles, comme les journaux de presse écrite, que moi je lis, parce que je les défends, parce que je trouve que c'est plus intéressant que vous informiez par cette presse écrite, plutôt que par Facebook, par Papy Robert sur Facebook. Et pour partie par l'État, pas par le gouvernement, par l'État, quels que soient les gouvernements d'ailleurs. Ça c'est une chose. Et quand je dis allons voir les réactions sur le Figaro.fr, c'est pas les réactions des journalistes, c'est la réaction de Macron. La réaction de Xi Jinping, le président chinois, de Joe Biden, le président américain, de la nouvelle première ministre britannique. Donc, même avec la plus grande des gentillesses, ton commentaire, il n'y a pas un mot qui fonctionne, quoi. Les réactions sur le Figaro MDR, ils sont subventionnés comme d'autres par le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui subventionne, c'est l'État. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais si tu restes avec nous et si tu reviens tous les jours, tu verras, ton regard va s'affiner un petit peu là-dessus. Mais là, non. Là, ça ne marche pas. Désolé. Ah, une petite coupure de son de 5 secondes. Ouais, alors je sais. Oh, comment ça? C'est revenu? Ah, attendez. On a un petit souci de son. Ouais, ça coupe, ça coupe. Attendez, on va corriger ça. Parce que on va au grand mot, les grands remèdes, on va peut-être même changer de micro. Attendez, on va vérifier les câblages. Bougez pas. Voilà. Contact, donc forcément, il y a quatre points de contact. Il y a un point de contact sur le micro, un point sur le cloud lifter, un autre de sortie, un autre sur l'entrée de la table de. Voilà. Donc là, voilà. On a tout reconnecté. Et si jamais ça recoupe un petit peu, on changera de micro. Voilà. Maintenant, c'est bon, ça va? Voilà. Et je coupe le son et je remets le son. Voilà. C'est Vladimir Poutine qui m'a coupé le son. Ils sont forts. Ils sont forts, ces Russes. Ils sont forts, ces Russes. Ok. Bon, si jamais ça recoupe comme ça, vous me le dites, parce qu'on cherchera le problème, on cherchera d'où ça vient, et on le réglera, parce qu'on est comme ça ici. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a des solutions, c'est un peu ma philosophie. Marty69, merci pour le Prime. Gerly02, merci pour le 7e mois. Et on enchaîne. Biden a réagi. Ah, m'intéresse. Réaction de Biden, donc la fameuse réaction sponsorisée par le gouvernement, vous savez, sur le Figaro.fr. Ting, 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 ting. Il y a une réaction de Biden, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas. On la trouvera, on aura des réactions. Non. Non, non. C'est encore Nakuzu qui continue. Samuel Etienne, c'est moi. Quelqu'un disait que j'étais Jean-Luc Reichmann tout à l'heure, c'est faux. Il y a censure médiatique en France, tout ce qui est contre l'idée de. Quoi? Tout ce qui est contre l'idée de propagande sont automatiquement censurés. Peut-on parler de liberté de la presse? Propagande. Alors je suppose que tu parles d'une propagande du gouvernement. Alerte enfant, il y a Solal qui débarque. Si tu penses que les journaux français que je lis moi ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, viens Solal, viens. Sur notamment ce que tu appelles la propagande, je suppose que c'est la propagande. Mais c'est quoi cette musique? Désolé. En fait, je pense que c'est vraiment Twitch qui a un petit problème. Ça, c'est la musique de Twitch qui se déclenche toute seule. Je me demande, c'est le petit problème de son qu'on a de temps en temps. Ah, tu viens me voir, Solal?
Oui.
Attends. Just 1 minute. Ok. Oh, mais c'est quoi ces pieds pleins de peinture? Oh oh! Alors, ici, c'est atelier créatif. Attendez, je vais vous montrer les pieds de Solal. Attendez. Parce que Solal, 2 ans et demi, fait de la. C'est mercredi. Donc, c'est création artistique. Création artistique. Attendez, je vais essayer de vous montrer les pieds.
On montre les pieds? On montre les pieds?
Oui. Je vais vous montrer les pieds.
On va montrer les pieds, d'accord? Attends. Attends. Faut pas montrer Solal. Alors, pas montrer le visage, hein? Et hop, voilà. Regardez, ils sont pas sales. C'est pour faire de la peinture. Tu fais de la peinture avec tes pieds? Oh, c'est super. Wouhou, la peinture. Tu fais un bisou? Tu fais de la peinture avec Marina? D'accord, ok. C'est ce que tu pourras montrer. Si, parce que papa, il faut qu'il travaille.
Non.
Et après, je viens te le voir.
Comment
bien. Voilà. Je t'aime très fort. Est-ce que tu fais de la peinture avec Marina? Oui. Je t'aime. Je pourrais venir dormir avec toi tout à l'heure?
Oui.
Ok.
À
plus tard,
À tout à l'heure, mon chéri. Bon, il est fâché parce qu'il voudrait que je passe la matinée avec lui, mais s'il y a matinée avec Solal, il n'y a pas de revue de presse, quoi. Donc, c'est atelier peinture aujourd'hui. Ici, les enfants sont très libres, notamment sur un plan artistique. Et donc, Solal fait de la peinture avec les pieds ce matin. C'est vrai qu'il a des, oui, il a des pieds immenses. Ouais. Il est très grand pour un enfant de 2 ans et demi. Donc, je ne sais pas d'où il tire ses gènes, mais sûrement pas de son papa. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense que du côté de mon amoureuse, du côté d'Hélène, il y a des gènes de grands. Il y a des grands dans la famille d'Hélène qui... Et clairement, il a pris, il a pris de ce côté-là, quoi. C'est vrai que pour un enfant de 2 ans et demi, il a des pieds assez immenses. Non, pas du facteur. Du côté d'Hélène. Oh, c'est fou, ça voyait le mal partout, quoi. Randy Random, merci pour l'abonnement que tu as offert à la commu. C'est super. Mois d'abonnement. On y va? Allez, maintenant qu'on s'est un peu penché sur le discours de Poutine et sur la guerre en Ukraine, tout le reste de l'actualité que j'ai lu dans les journaux dont je vous ai montré les unes tout à l'heure dans le sommet. On commence par Le Monde. Quoi, encore le micro? Ah, donc on a faux contact avec le micro. Alors, ce qu'on va faire, on va procéder par élimination, on va changer de micro pour voir si c'est le micro. Et si c'est pas le micro, c'est peut-être un câble, ok? Bougez pas. Ok? Parce qu'on se demande si c'est pas un Twitch aussi. Bougez pas. Hop. Ok. Certains n'ont pas du tout de problème de coupure, en fait. Donc, en fait, comme le dit Héloïse à l'instant, si certains ont des coupures et pas d'autres, ce qui était déjà le cas hier, eh ben, ça peut pas être le matos. Voilà, ça peut être que Twitch. Parce que vous ne pouvez pas avoir pour certains un signal clair et pour d'autres pas, quoi. Voilà. Donc, ou c'est un problème d'OBS, ou c'est un problème de. Mais non, mais c'est forcément Twitch. Voilà. Je vous lis, hein. Alors, non, ça peut pas être mon micro 100% puisque certains n'ont pas de problème. Twitch a mis un tweet pour dire qu'ils sont en train de régler, dit Dougy. Et le toboggan dit, si on est 80% pour qui ça coupe, c'est étrange. Non, à partir du moment où il y a 20% de gens pour qui ça coupe pas, eh ben ça peut pas venir de chez moi. Voilà. Et donc s'il y a un tweet de Twitch sur le sujet, c'est qu'il y a un problème chez Twitch. Voilà. Je vous lis là-dessus, on va régler ça. Ouais. Pas de problème de son, par exemple, pour Mercier Max. C'est Twitch, j'ai eu de gros problèmes de vidéo hier et de son avant-hier, me dit Grampus. Ok. Oh, c'est Twitch, ah bon, on continue alors. Ok. Allez, on y va ? Allez, go. Donc, on va commencer par le monde. Le monde, qui dit quoi ? Ça. Le monde, c'est pas... Non, ça, c'est pas le dernier, ça. C'est celui-là. La une du monde est consacrée au système de santé. On en a beaucoup parlé. Je pense que je vous trouverai des articles dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois sur les éventuelles solutions trouvées par l'exécutif pour régler le problème de l'hôpital. Voilà. On part de très, très, très loin quand même pour avoir passé un petit peu de temps dans un hôpital parisien ce week-end. Mais il y a aussi ça. Ça, on n'en a pas trop parlé encore. Il y a énormément d'articles là-dessus. Ce matin, Mélenchon affaibli par l'affaire Quatennens. Hop, allons voir l'article. L'affaire Quatennens affaiblit Jean-Luc Mélenchon. En quoi le fait que donc Adrien Quatennens, un des principaux responsables de la France insoumise, qui a reconnu avoir donc giflé son épouse avec laquelle il est en instance de divorce et donc a été mis de côté un petit peu LFI, en quoi cette affaire affaiblit Jean-Luc Mélenchon ? On va comprendre ça. Le chef des Insoumis, c'est ça l'analyse du Monde, la petite valeur ajoutée du Monde dans cette affaire, n'a pas été suivi par les cadres dans son soutien aux députés du Nord, et ça c'est une première. Là on est plutôt sur les conséquences politiques de l'affaire, mais ne vous inquiétez pas, on va aussi se pencher sur le fond de l'affaire bien sûr. Julien Bayou, on va en parler aussi bien sûr. Lisons cet article du Monde. C'est un point de bascule. Hop, je dézoome un peu. Pour la première fois dans l'histoire récente du mouvement qu'il a créé, Jean-Luc Mélenchon n'est pas suivi par l'ensemble des insoumis, et cela se voit. A commencer par un silence qui dure. Dimanche 18 septembre dans l'après-midi, son tweet de soutien à Adrien Quatennens, qui s'est retiré de la coordination de la France insoumise en raison de violences conjugales, n'a pas donné lieu aux 1000 relais que tout message de sa part déclenche d'habitude chez ses affidés et a été immédiatement décrié par les féministes. Voilà. Beaucoup de silence et aussi beaucoup de critiques. La grande majorité de députés insoumis, par exemple, n'ont rien dit, se sont tus. Et ça, c'est une nouveauté, écrit Le Monde, le signe que sa création, donc le parti, LFI, lui échappe, que la relève s'autonomise. Il y a quelque part une forme de passage de relais, écrit Le Monde. Entre la période structurée autour de l'idée que Jean-Luc Mélenchon était le candidat à la présidentielle, mais aussi l'arbitre ultime de toutes les décisions, et un nouveau mode d'organisation différent de celui de la campagne, et allant vers la construction peut-être d'une autre candidature. Voilà. Un peu plus tard, un peu plus loin, Le Monde écrit « Dimanche, quand le communiqué d'Adrien Quatennens, puis le message de Jean-Luc Mélenchon tombe, les insoumis sont pris de court. Sous l'impulsion d'un petit groupe, un communiqué est composé à la hâte. Succinct, il ne dit pas grand-chose, mais rappelle l'engagement féministe du mouvement. Plutôt que de devoir assumer le message mélenchonien, les cadres s'y réfèrent. » Donc vous avez le tweet de Mélenchon, mais très vite, vous avez un communiqué qui est fabriqué par le parti, quelque part pour, le mot est un peu fort, pas se désolidariser du tweet de Mélenchon, mais partir sur autre chose. Et dans les réactions à cette affaire, la plupart des cadres de LFI vont préférer se référer au communiqué plutôt qu'au tweet de Mélenchon. Je suis en colère, nous n'avons pas eu les réunions, les discussions qui auraient permis de mieux réagir, regrette Clémentine Autain, qui est membre de LFI. La réaction la plus franche vient d'une autre femme, d'une autre élue députée, Pascale Martin, qui est élue de Dordogne, sociologue de formation, qui est féministe. Dans un communiqué, qu'elle signe toute seule. Elle juge les réactions de Jean-Luc Mélenchon insuffisantes, inacceptables à plus d'un titre. Elle regrette notamment une minimisation des faits qui ont été commis et une méconnaissance de la réalité des violences conjugales. Non, il ne s'agit pas d'un simple divorce de camarades, ajoute-t-elle. L'élu demande en conclusion que tout cas de violence ou d'agissement sexiste impliquant des députés LFI donne lieu à une discussion au sein du groupe politique LFI afin que l'ensemble des députés décident collectivement des suites politiques adéquates. Grand renversement de la culture du secret des insoumis, écrit Le Monde, qui ne laisse personne indifférent. Alors, pendant ce temps, le député du Nord, on parle d'Adrien Quatennens, essaie de se faire oublier, ce qui paraît difficile car la pression n'est pas près de retomber. La ligne est claire, pas d'agresseur en politique. Adrien Quatennens ne peut pas rester député. Qui dit ça? C'est l'élu parisienne écologiste et féministe Raphaël Rémy Leleu. Sandrine Rousseau, quant à elle, ne demande pas sa démission, mais sa mise en retrait de tout. Lundi soir, une autre affaire, certains en parlaient, s'est invitée sur le plateau de France 5, où la députée Sandrine Rousseau a été interrogée. Des accusations portées par une ancienne compagne de Julien Bayou, qui a saisi une commission interne de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à Europe Écologie Les Verts cet été. L'élu écologiste a évoqué des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. À LFI et ailleurs, le débat sur la gestion des violences sexistes et sexuelles est parti pour durer. Un mot de Julien Bayou. Sur Julien Bayou, on ne sait pas. Donc, l'affaire Julien Bayou, donc, qui est le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, elle part donc des propos de Sandrine Rousseau sur le plateau de France 5. Et elle a parlé donc d'un témoignage de l'ancienne compagne de Julien Bayou qui se serait confié à elle qui aurait dénoncé des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Sur Julien Bayou, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, précisément. Voilà. Je relis des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. On ne sait pas ce que c'est exactement. Est-ce que Julien Bayou va préciser? Est-ce que l'ancienne compagne de Julien Bayou va préciser? Ça, on ne sait pas. Là, on est dans une analyse très, très politique, avec l'opinion et avec Libération, surtout, on va se pencher sur la gêne qu'ont les partis de gauche à gérer ces affaires en interne. Alors sur le discours féministe, sur les valeurs féministes, sur la dénonciation des violences sexuelles et sexistes dans les discours, aucun problème. Mais quant à la gestion en interne de cas qui concrètement abordent ces sujets, ben là c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est ce qu'on verra avec Libération et avec l'opinion. Mais je voulais déjà vous lire cet article. Je lis un ou deux messages là-dessus avant d'enchaîner, puisque je suis là aussi pour vous lire, vous. Je remercie Gandalf Listari qui, en plus d'être modérateur, est abonné pour un 12e mois à cette chaîne. D'ailleurs, je vais aller voir les modos dans un instant. Écrivain, merci pour ton soutien ce 12e mois. C'est très gentil. Merci pour ton message. D'abonnement, Captain SK, merci pour ton Prime. Et je vais remercier les modos qui sont avec nous ce matin. Où êtes-vous, les modos? Vous êtes là? Donc, je suppose que Gandalf est là. Oh là, vous êtes tellement nombreux! Waouh, ça me fait super plaisir. Vous serez là demain matin pour le stream 100% sport, là? 11h, enfin demain matin, 11h, 16h30, gros stream. Alors, Brourou 06, merci, Francis, merci, Gandalf Listari, merci, Julo 18, merci, la fille du Père Noël, merci, Petit Dragon Vert de Rage, merci, Soleil Alan, merci, Xineco, merci, Nightbot, bien sûr, je crois que j'ai la meilleure armée de modérateurs ever, vous êtes formidables, merci. Sans vous, tout ça n'est pas possible. Sur Mélenchon, tout ça, vous voulez dire un petit mot avant qu'on enchaîne? Merci Manounet, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Les écouteurs à 2 euros de Xari écrivent dans le chat: je n'ai pas entendu la gauche demander la démission de Quatennens, de Coquerel, de Bayou, de Bouaf, contrairement à Darmanin et à Abad. C'est vrai. Alix Bouyégué, notre spécialiste politique ce matin, rappelait que certains à gauche avaient demandé la démission de Gérald Darmanin et Damien Abad. Et en revanche, il n'y a pas d'appel à la démission des quatre personnalités de gauche que tu viens d'évoquer. C'est vrai. C'est là où on sent que la gauche est gênée avec ses affaires. Je vous lis. Il y a Freebird qui est en colère, mais je suis pas d'accord avec toi. Vraiment, le choix des titres d'actu sont à pleurer. Chômage, bon, on n'a pas parlé. Chômage, retraite, RSA, inflation, on en parle tous les jours, tous ces sujets ici, mais tu dois pas venir souvent. Non, Quatennens, ça mérite qu'on en parle pendant une semaine, donc ça fait pas une semaine qu'on en parle, et on va pas en parler pendant une semaine non plus ici. Si c'est pas de l'enfumage, ça y ressemble bien. Je ne fais pas de l'enfumage, je ne vais pas parler de Quatennens pendant une semaine. Demande aux autres, ceux qui sont là tous les jours, le chômage, la retraite. Enfin, la retraite, on en parle tous les jours. RSA, inflation, on en parle tous les jours. On vient de passer trois quarts d'heure sur l'Ukraine. Donc non, ça n'est pas de l'enfumage, c'est pas ça qu'on fait ici. Mais si tu venais tous les jours, tu le saurais. Non mais, parlons plutôt de ce qui nous intéresse, les violences sexuelles contre les femmes, les violences et les violences sexuelles contre les femmes, et les violences sexistes, ça c'est intéressant, et c'est important. Allez, de toute façon on va en reparler avec Libération et l'opinion qui consacre des dossiers importants là-dessus, voilà. Donc, pour répondre à l'accusation d'enfumage, on a passé trois quarts d'heure sur l'Ukraine et maintenant, hop, je débranche ma tablette, on va parler de ce qui se passe en Iran. Donc tu vois bien effectivement qu'on est en train de vous enfumer avec une semaine de stream sur Quatennens, n'importe nawak. Voilà, ça c'est important. Merci aux Parisiens, qui est un journal qui n'est pas tellement sur l'info internationale, enfin pas autant qu'un journal comme Le Monde, ou encore un petit peu comme Libération et Le Figaro, voilà, qui est plutôt sur une info proche de ses lecteurs, consommation, économie, services, évolution sociétale. Il y a de l'international, bien sûr, dans le Parisien, mais une du Parisien sur l'actualité internationale, c'est pas tous les jours. Et donc, je voudrais remercier le Parisien qui fait un dossier qui est vachement bien fait sur ce qui se passe en Iran, sur le courage des femmes iraniennes en ce moment. Après quoi ? Après le décès d'une femme, d'une jeune femme de 22 ans qui a été arrêtée dans la rue pour avoir mal porté son voile en Iran, qui soulève une vague de colère chez les Iraniens et surtout chez les Iraniennes. Voilà. Ça, c'est essentiel. Et je voulais vous lire d'abord l'éditorial de Nicolas Charbonneau à ce propos. Mahsa Amini, c'est elle. C'est aussi une façon de lui rendre hommage ce matin. Mahsa Amini, le nom d'une jeune fille de 22 ans, morte vendredi après 3 jours de coma. Elle avait été transportée inanimée à l'hôpital Kasra de Téhéran après avoir été arrêtée et interrogée par, pas n'importe qui, par la police des mœurs. Les sbires du régime des mollahs iraniens qui sont chargés de contrôler l'application du code vestimentaire. Une armée entière dédiée à la lutte contre l'immoralité, entendez par là la longueur d'une jupe, des pantalons trop serrés, des maquillages trop colorés, quelques mèches de cheveux qui dépasseraient du voile obligatoire. C'est ce qui s'est passé avec cette jeune femme qui est morte. Des miliciens qui patrouillent pour contrôler celles qui entendraient s'émanciper dans un pays qui les a souvent transformés en fantômes depuis la révolution de 1979. Mais aujourd'hui, elles sont des centaines dans tout le pays, au nom de Mahsa, au nom de leurs sœurs, de leurs amis, de leurs mères, qui bravent les regards noirs, les ordres, les coups de fouet de leurs bourreaux. Des femmes follement courageuses qui se lèvent pour brûler ces foulards, qui les étouffent. On a ces images actuellement en Iran de femmes qui brûlent leurs foulards devant les policiers. Ces femmes qui se dévoilent, qui lâchent leurs cheveux, qui montrent des visages qui rayonnent. Et en face, eh bien, les masques qui tombent et un régime qui s'affole car elles deviennent ces femmes trop dangereuses. Alors on arrête, on emprisonne. On menace, on terrorise, mais rien n'y fait, et le prénom de Mahsa semble une vague qui déferle dans un pays qui n'aime pas beaucoup le désordre, on parle du régime, et n'entend pas laisser les femmes manifester pour dire leur envie libre. Chez nous, quelques rares voix commencent à s'élever, on n'en parle pas beaucoup en France, hein, pas assez. Merci aux Parisiens pour cette une. Quelques rares voix commencent à s'élever pour dire leur soutien à ces courageuses iraniennes. Demain, le prénom Mahsa doit devenir le symbole de ces femmes entrées en résistance. Ça, c'est l'édito. Lisons les faits maintenant, rapportés par le Parisien, c'est deux pleines pages sur cette affaire. Point levé, voile baissé, des femmes scandent actuellement en Iran des slogans hostiles au gouvernement. Depuis 5 jours, elles sont des milliers à braver la peur dans plusieurs villes du pays pour rendre hommage à Mahsa Amini, cette jeune iranienne, qui est décédée vendredi à 22 ans de la suite de son interpellation à Téhéran pour avoir mal porté son voile. Jusqu'ici anonyme, elle est devenue le symbole de l'oppression des femmes par le régime des mollahs. Une manifestante, Gila, elle a 16 ans. Elle a déambulé lundi soir dans les rues de la capitale avec une amie et la mère de celle-ci, elle a manifesté. Voilà. Elle a décidé de retirer son hijab pour la manifestation. Ce geste est devenu un cri de ralliement, le symbole de cette révolte populaire contre les politiques ultra-conservateurs du régime. Et cette jeune fille de 16 ans, elle dit « On est toutes effrayées à l'idée de manifester. » Les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes. Ils ont blessé de nombreux participants, mais Gila ne veut pas rater l'occasion de crier son désespoir. Sur les réseaux sociaux, des dizaines d'Iraniennes se filment actuellement, vous avez peut-être vu ces images, en train de mettre le feu à leur foulard ou de se couper symboliquement les cheveux. Depuis la révolution islamique de 1979, la loi impose en effet à toutes les femmes le port du foulard en public. Les tenues de couleurs vives sont interdites, tout comme les pantalons serrés sont interdits, les jeans troués sont interdits, les manteaux qui s'arrêtent au-dessus du genou sont interdits. J'ai l'impression que nous sommes toutes otages, c'est le titre ici. Le hijab n'est pas la seule atteinte à nos libertés, il y a aussi l'interdiction de divorcer, par exemple. En Iran, les hommes commencent à se mêler au cortège pour soutenir leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs. À 27 ans, Mohamed tient à manifester aux côtés de ses sœurs, comme il dit, chez lui à Téhéran. Il dit, ce monsieur, « Nous avons un gros problème avec nos dirigeants. Le monde doit savoir que nous sommes complètement opposés à leurs actes. Lui aussi rêve d'un Iran libre, sans dictature, ni police des mœurs. Il joue avec la religion pour réduire les gens au silence, accuse le jeune homme. Fait rare dans la République islamique. Des parlementaires critiquent cette patrouille d'orientation. Le député Jalal Rachidi Kouchi dénonce une brigade sans aucun résultat, sauf celui de causer des dommages au pays. Le président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, exige quant à lui une enquête sur cette unité de police afin d'éviter la répétition de tels cas. Voilà. Merci aux Parisiens pour ça. Je voulais un petit peu et on enchaîne. Oui, je crois que c'est à partir de 7 ans. Lucie, tu as raison. Je crois qu'à partir de 7 ans, il faut porter le foulard pour les femmes en Iran. On me parle souvent de courrier international. Aslan, tu as copié-collé ta question plusieurs fois, donc je vais y répondre. Mais j'ai déjà répondu à cette question plein de fois dans le stream, mais tu viens peut-être pour une première fois. Courrier international, c'est un très, très bon hebdomadaire, si je dis pas de bêtises, hein, périodicité hebdomadaire une fois par semaine, que j'ai beaucoup lu dans ma carrière parce que c'est un excellent magazine. Alors, je le lis pour le plaisir. Moi, il m'intéresse un peu moins ici, je vais te dire pourquoi. Alors, le Courrier International, c'est un hebdomadaire, c'est un magazine qui n'écrit quasiment rien. C'est-à-dire que ce n'est que la traduction d'articles étrangers. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant parce que tu as des regards de plein de journaux du monde entier. Donc c'est vraiment une fenêtre sur le monde qui est très intéressante. Le petit problème par rapport à ce que je propose, c'est que, donc déjà, il sort une fois par semaine. Je ne vous lis pas les magazines, pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce qu'en fait, la matière est gigantesque. Il y a tellement de magazines en France, et notamment des magazines passionnants, que déjà mes streams durent 2h30, 3h au moins avec des quotidiens du jour. Et donc si j'ajoute les magazines, c'est pas possible. Et je ne me vois pas remplacer les quotidiens par les magazines parce que moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au quotidien, parce que mon rendez-vous il est quotidien. Donc pour cette raison, je ne lis pas les magazines. Je pense que vous en êtes rendu compte, je lis pas que. Il n'y a pas que courrier que je laisse de côté, il y en a plein d'autres. Pour privilégier les quotidiens. Et puis par ailleurs, courrier. Donc c'est un hebdomadaire qui donc va revenir sur des faits passés qu'on aura déjà évoqués un jour, deux jours, une semaine, parfois 15 jours auparavant, puisque non seulement ça sort une fois par semaine, mais en plus c'est sur des articles parus avant la sortie du journal bien sûr, puisque les articles dans la presse étrangère, ça crée un décalage qui fait que même si les dossiers sont extrêmement intéressants, ils sont un peu moins... Ils sont un peu moins sur l'actu récente qu'on évoque nous tous les matins, puisque l'idée ici, c'est à la fois de réfléchir ensemble à l'actualité, mais aussi d'être informé. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Courrier est un excellent magazine, mais que je ne lis pas. Alors après, je pourrais faire une revue de presse des hebdos, mais entre... je lis quelques SMS. Entre La Matinée Étienne, sur les journaux, l'hebdo Étienne, le vendredi soir, avec trois invités pour revenir sur l'actualité de la semaine, les invités parfois à la maison, les streams dans les musées, etc. France Info, la matinale, question pour un champion, en fait, je ne peux pas tout faire. Donc, c'est une très bonne idée. Par contre, si quelqu'un dans le chat a envie de se lancer dans une revue de presse des hebdos, let's go, quoi. Let's go. Voilà. Mais là, je manque de temps, quoi. Là, je manque de temps. Donc, merci aux Parisiens pour ça. C'est super. On joue un petit bonjour du Japon qui me fait bien plaisir. Sur l'Iran, je voulais un petit peu quand même, parce que je ne vous ai pas trop lu sur l'Iran. Voilà. Erosinine 45 sur les Iraniennes dont on parlait, ces femmes sont des guerrières pleines de courage. Bravo à ce peuple qui se soulève contre ces régimes autoritaires. Le courage de ces femmes, c'est juste incroyable. Enfin, beaucoup de bravo à ces manifestants, à ces manifestantes, Chloé notamment. Est-ce que les femmes non pratiquantes doivent quand même porter le voile? Je ne sais pas si c'est possible d'être super non pratiquant en Iran. C'est un régime islamique, hein. C'est un régime politique religieux islamique, d'une part, peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Sans être un spécialiste du régime, je pense que même si tu n'es pas pratiquante, je pense que tu es obligé de porter le voile. Enfin, le foulard. Voilà, c'est la théologie de l'État, comme dit Ratus Gaming. Hein. Ce sont des lois d'inspiration religieuse. Voilà, vous êtes nombreux, nombreuses à saluer le courage de ces femmes, comme la Mandalorienne, par exemple. Ouais. Bien sûr. Jure le bro, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Le Keuv, merci pour le quatrième mois d'abonnement. On enchaîne et on revient sur cette histoire de violence sexiste. Alors, on n'est pas que sur l'affaire Quatennens, c'est l'affaire Bayou et puis c'est plein d'autres affaires aussi, les violences sexistes qui touchent le milieu politique. C'est la une de l'Opinion ce matin. Alors, avec un édito, mais hyper à charge contre Mélenchon, que je vais vous lire dans un instant. D'ailleurs, il y a le dessin de CAC. CAC est un dessinateur que je trouve qui a du talent pour croquer l'actualité. Je regarde juste si je peux améliorer la résolution. Hop. La mise au point, elle est la mise au point, elle est au maximum. Ouais. Maximum. Bon, je ne peux pas faire plus clair. Ouais. Ah, ça va être ça. Le dessin de CAC est assez réussi. Vous avez Jean-Luc Mélenchon à gauche et Sandrine Rousseau à droite qui discutent de tout ça. Et Mélenchon qui est un peu en colère et qui dit « Mais on n'était pas censé laver notre linge sale en famille. » Voilà, hein, plutôt que déballer tout ça, que les médias en parlent, voilà, que ça débatte, que nos opposants politiques se moquent de nous. Et réponse de Sandrine Rousseau, oui, mais les hommes ne font jamais la lessive. Voilà pour la petite blague de CAC. Petit début d'article ici, pour comprendre l'espèce de séisme que cette affaire Quatennens représente pour LFI. Rien ne se passe comme prévu. La nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, donc la NUP, pensait attaquer cette rentrée sur le front social. C'est vrai que tous les observateurs politiques s'accordaient à dire que cette rentrée sociale tendue, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, inflation, pouvait être, comment dire, une séquence intéressante pour la gauche, pour la NUP, pour LFI, dont son opposition au gouvernement. La NUP pensait attaquer cette rentrée sur le front social. C'est sur celui des violences sexistes que la coalition de la gauche et des écologistes se débat depuis plusieurs jours. Donc pour le coup, on a une séquence qui n'est pas du tout positive pour LFI. Et la NUP, puisque Europe Écologie et Verts est également touché avec le cas Julien Bayou. Édito, totalement à charge contre Jean-Luc Mélenchon. Voilà, que les âmes sensibles et les supporters de Jean-Luc Mélenchon ne soient pas surpris. On est avec un journal qui n'est pas très très proche des idées de LFI en général et de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi ces réactions qui ont beaucoup été critiquées? Hein, ce tweet de soutien à Adrien Quatennens et ce tweet qui avait oublié la victime de la violence de la gifle, eh bien l'opinion répond parce que ça lui ressemble. On savait déjà Jean-Luc Mélenchon habile à dénoncer l'instrumentalisation de la justice pour mieux manipuler l'opinion sur ses propres turpitudes, l'affaire des perquisitions. On le savait capable, écrit Rémy Godot, capable d'erreurs de jugement monumentales, notamment sur l'Ukraine, et de pertes de contrôle théâtral simple. D'un narcissisme dangereux, la République c'est moi. On le savait d'une dextérité toute populiste pour exiger un dégagisme général après une carrière d'apparatchik d'un demi-siècle, qu'ils s'en aillent tous. Alors ça continue. On le savait encore sensible à un culte de la personnalité, à une discipline militante qui alimentait un déni de réalité pathologique, sa presque victoire à la présidentielle. On le savait adepte de la dissimulation partisane, preuve que l'intérêt politique prévaut sur celui des victimes, l'affaire Bouaf. On le savait. Aussi, enchaîne Rémy Godot, sera-t-il difficile à l'intransigeant donneur de leçons d'éclipser son soutien chaleureux à Adrien Quatennens après que ce dernier a admis des violences conjugales, par un simple et désormais classique, ça ne me ressemble pas. Parce que ça lui ressemble, à lui qui se revendique pourtant d'un féminisme intégral. Avant même le dérapage révélateur, donc le tweet, cet arbitraire, cette impunité, cette insincérité, ce cynisme se trouvait tout entier dans sa pratique du pouvoir, faite de morale maximaliste, de transparence totale, d'exigence personnelle, de révocation expéditive, d'exemplarité pour les autres, écrit Rémy Godot. Seulement pour les autres et surtout pas pour son camp. Ainsi le tribun parle-t-il creux, tweet-t-il trouble, agit-il faux et se joue-t-il des victimes, exploitant leur colère pour semer le chaos au profit de sa gloire. Mais le voile tombe, tel est pris qu'il croyait prendre. Voilà, bon, on est sur un édito complètement à charge de Rémy Godot contre Jean-Luc Mélenchon. Il y a Blue Citruc qui est très en colère. Je savais que cet édito allait provoquer des réactions, qui écrit « Les journaux me dégoûtent, bonne lecture à vous, à plus tard ». Ce n'est pas les journaux, c'est l'opinion. Et c'est bien qu'on ait des journaux qui aient des sensibilités et des regards différents sur l'actualité. Donc là, on est avec un journal qui n'est pas du tout pro-LFI, qui n'est pas du tout pro-Mélenchon. Il n'y a rien de très surprenant dans cet édito. Hein, ça n'est pas le regard que l'Humanité, que Libération vont pouvoir porter sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est le regard de l'opinion. Et c'est bien d'avoir ce regard-là et d'avoir d'autres regards. Donc à partir du moment où un journal ne va pas dans votre sens, ne dites pas « je ne vais plus lire les journaux ». Si vous le voulez, vous pouvez ne plus lire l'opinion, à supposer que vous lisiez l'opinion avant, bien sûr. Moi, je crois qu'il ne faut pas lire un journal, d'ailleurs. Je crois qu'il faut lire tous les journaux pour avoir différents regards. Voilà pour le regard de l'opinion qui dit en creux « ça n'est pas un dérapage, ça n'est pas surprenant voilà, Jean-Luc Mélenchon est pour plein de belles choses, mais pour les autres, et pas forcément pour lui, et pas forcément pour ce parti. » Ça, c'est le regard de l'opinion. Prenons un autre journal. Ah, je suis d'accord. Ça, je le dis tout le temps, Sadine Live dit « rien ne sert de lire un journal qui te conforte dans tes idées ». Si vous lisez tous les jours le même journal qui correspond plus ou moins à vos valeurs, laisse tomber, quoi. C'est-à-dire que tu vas tous les jours lire les mêmes arguments, la même analyse, le même regard, les mêmes valeurs, la même construction du monde. Au final, tous les jours, tu vas dire « bah oui, ils ont raison, ils pensent comme moi ». Oui, bien sûr. Tu lis le journal qui te correspond. C'est intellectuellement, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Tu confrontes ton regard sur le monde à un journal qui a le même regard sur le monde. Aucun intérêt. Non, fais-toi bousculer. Voilà. Lis un édito comme celui-ci dont tu te dis c'est pas possible. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est comme ça qu'on peut réfléchir. Voilà. Bon, je crois. Alors, ne vous fiez pas à cette très jolie photo de Virginie Efira. C'est l'actualité cinéma, on est mercredi. On en parlera un peu plus loin avec un autre journal. Dans ce qui nous intéresse, dans la une de Libé, c'est ce qui est à gauche. Violence sexiste et sexuelle en politique, le grand malaise. Le grand malaise, surtout à gauche, écrit Libération. Les derniers déballages montrent combien les partis de gauche restent incapables de donner des réponses à la hauteur des engagements affichés. Donc, Libé dit, ça va pas du tout pour les partis de gauche, parce qu'ils ont un discours, notamment sur le féminisme et sur les violences contre les femmes. Et puis, dans les faits, en interne, ça va pas. Voilà. Attention, la droite n'est pas oubliée par Libé. À droite, le déni reste de mise. Le mot est un peu fort, qu'est-ce que ça veut dire ? Libé, dans ce dossier, fait le constat que au sein des partis de gauche, LFI, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, ces dernières années, sont mis en place des espèces de structures internes, voilà, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de comportement sexiste. Une espèce de, c'est pas des tribunaux, hein, mais c'est une espèce de commission interne spécialisée dans ces questions, d'ailleurs qui ont bien du mal à statuer. Mais Libération fait le constat que à droite, dans le camp de la Macronie et à l'extrême droite, en fait, ces commissions n'existent même pas. Voilà. Donc, à gauche, on a des problèmes avec ces commissions qui font pas leur boulot, ou qui ne parlent pas, ou qui n'osent pas parler, tout ce que vous voulez, un truc qui fonctionne pas. Alors, regardez, des cellules qui montrent leurs limites, mais Libé dit aussi, dans les autres partis, droite, Macron et extrême droite, ces cellules n'existent pas. Voilà. Donc, tout le monde en prend pour son grade. Mais la Libération se penche sur la gauche. Pourquoi ? Parce que la gauche, elle a un discours. Elle a ce discours féministe, ce discours un peu en pointe contre les violences faites aux femmes. Et à un moment, Libé, qui est un journal qui est plutôt de gauche d'ailleurs, dit « Ouais, mais alors, il y a le discours. » Et puis dans les faits, il y a un truc qui ne va pas. Édito, Alexandra Schwarzbord, crédibilité. Les partis politiques ont longtemps failli dans ce domaine et peinent toujours à s'en emparer et à porter une parole claire. Pendant des années, les propos et les gestes intolérables envers les femmes ont été passés sous silence, beaucoup les considérant même comme normaux, là on parle des politiques, hein, le pouvoir se trouvant essentiellement du côté des hommes, les femmes agressées n'avaient d'autre choix que celui de se taire, de ravaler leur sentiment d'humiliation ou de honte. Les partis politiques ont mis du temps à prendre au sérieux les plaintes des femmes, mais la vague qui monte est si forte que nul ne peut ignorer aujourd'hui que les pratiques de la vie collective et de la vie publique ont changé. Les femmes ont investi certains des plus hauts échelons de l'État et n'entendent plus se laisser maltraiter. Maintenant qu'on a lu ce petit édito, lisons ce gros dossier qui est assez bien foutu de Libération sur ces questions. Et je remercie 8 studios pour le 7e mois d'abonnement. à gauche, pourquoi tant de gêne ? Face à la multiplication des accusations de violences sexistes et sexuelles en leur sein, les partis de gauche sont tiraillés entre le crédit apporté à la parole des victimes et des procédures internes fragiles. Un mot de Julien Bayou, au début de cet article, il va se placer en réserve. Mardi, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a pris du champ le temps d'une enquête interne de son parti sur des accusations portées par son ex-compagne. Chaque mot est important. Il a pris du champ, il n'a pas démissionné. Il s'est mis de côté par rapport à ses responsabilités. Pendant combien de temps? Le temps d'une enquête interne de son parti sur des accusations portées par son ex-compagne. À ce jour, on ne connaît pas précisément les accusations telles qu'elles ont été formulées par l'ancienne compagne de Julien Bayou. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, peut-être dans les prochains jours. En juillet, la cellule de lutte contre les violences sexistes ou sexuelles du parti, donc il y a une cellule de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein d'Europe Écologie Les Verts, ça n'existe pas dans tous les partis, cette cellule a été saisie en juillet de ces faits, on parle de la compagne, l'ex-compagne de Julien Bayou, mais la nature exacte de ces faits n'a pas été révélée. Lundi soir, rebondissement, sur France 5, la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, a évoqué le sujet. J'ai reçu chez moi très longuement une ex-compagne de Sandrine, de Julien Bayou. Elle était dans un état très déprimé. Elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après. Voilà. Mais elle ne précise pas non plus les faits. Donc il y a une espèce de brouillard là-dessus. Nuk, pourquoi des enquêtes internes du parti? Pourquoi pas une enquête judiciaire? Bah, parce qu'il n'y a pas plainte, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je prends ta question en deux temps. Tu dis pourquoi des enquêtes internes? Parce que des partis ont des commissions, des cellules internes pour bosser sur ces questions de violences sexistes et sexuelles pour éviter que ça se produise en fait, et pour écarter les auteurs de ces violences. Voilà. Certains partis en ont, certains n'en ont pas. Certains partis sont en mode non, mais tout va bien, voilà. Laissons faire la justice. Voilà. Et puis d'autres disent vouloir ouvrir les yeux. Ça marche, ça marche pas. Pourquoi pas d'enquête judiciaire? Parce qu'il n'y a pas de plainte. A priori, cette compagne, à ce jour, d'après les informations qu'on a, cette ancienne compagne de Julien Bayou n'a pas porté plainte. Hein, voilà. Bah, Cyril, je sais pas. Cyril me dit pourquoi il n'y a pas plainte. Mais je sais pas, moi. Il faut demander à la compagne. Que voulez-vous que je... C'est très chou. Dans l'affaire Quatennens, il n'y a pas plainte. Il y a main courante. Mais il n'y a pas plainte. Il n'y a pas plainte de la compagne d'Adrien Quatennens. Donc, voilà. Alors, IlAccess dit « main courante sur violence conjugale, enquête automatique ». Je ne suis pas sûr qu'en France... Alors là les faits te donnent tort, pardon. Hein. Il y a IlAccess qui dit « main courante sur violence conjugale égale enquête automatique ». Alors ça, dans le meilleur des mondes, ce serait le cas. Mais pardon, moi qui vous parle régulièrement des violences faites aux femmes, le nombre de féminicides en France dont on découvre que des mains courantes, que des femmes qui sont allées au commissariat ou à la gendarmerie pour faire des mains courantes, pour dénoncer, pour signaler les violences de leurs compagnons, époux, fiancés, que sais-je, qui ont juste été enregistrées, et il n'y a jamais eu d'enquête, et il y a eu une main courante, deux mains courantes, trois mains courantes, quatre mains courantes, cinq mains courantes, et puis il y a eu meurtre, bah ça montre bien que la main courante, contrairement à ce que tu disais, ne déclenche pas une enquête automatique. Ça devrait être le cas, dans le meilleur des mondes, et s'il y avait les moyens. Mais ça n'existe pas. Voilà. Donc, je ne suis pas un spécialiste des questions judiciaires. Vous me demandez pourquoi il n'y a pas d'enquête. Peut-être parce qu'il n'y a pas plainte. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. J'essaie de vous donner les infos que j'ai. Voilà pour l'affaire Julien Bayou. Voilà. Là, il nous manque des infos. Les affaires, en tout cas, pleuvent. Pleuvent sur la gauche. Dimanche, le député LFI Adrien Quatennens avait reconnu, c'est lui qui a reconnu, des gestes violents, notamment une gifle sur sa femme. Il s'est mis en retrait de sa fonction de coordinateur du mouvement et de son activité parlementaire. Mardi, Mediapart a aussi révélé l'existence d'un signalement auprès de la cellule de LFI sur le député Thomas Porte, une autre histoire. Le témoignage rapporterait des envois de messages jugés inappropriés. Ces cas s'ajoutent à ceux dans le passé des insoumis Tahabouaf et Éric Coquerel, respectivement accusés de violences sexuelles et d'agressions sexuelles avant l'été. À chaque fois, les cas sont différents, écrit Libération, mais suffisent à plonger dans l'embarras des partis dont le discours féministe avancé se heurte à une gestion défaillante de tels dossiers lorsque ces partis sont concernés. Outre les faits reprochés aux députés du Nord, donc c'est Quatennens, et qu'il a reconnu, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a salué sa dignité et son courage sans condamner ces violences dans un premier temps, a provoqué une onde de choc jusqu'au sein de LFI, et il y a mon petit Solal qui revient encore.
Oh mon bébé, tu vas...
Je m'étonne que j'ai des problèmes de son après, la table de mixage vient de cracher par terre, emportée par Solal, qui n'est absolument pas contrôlée par la nounou, c'est un peu la fête ici.
Allez, viens mon bébé. Ça va?
I know. Tu vas avec Marina? Si, un poquito?
Un poquito.
Et après, j'irai faire dodo avec toi. D'accord? Tu veux bien que j'aille faire dodo avec toi après? Tu veux?
Oui.
Tu as mangé déjà? Tu es fatigué.
Je pense qu'il va manger déjà.
Ok. Va te reposer un peu avec Marina. Et après, je viens faire dodo avec toi. Ok? Si. Et après, je viens te voir et on fait dodo. Ok.
Il a chanté, il a dansé avec moi.
C'est vrai? J'arrive. Ok. Viens, va avec Marina. Si. Et après, je viens te voir. Tu fais un bisou à tout le monde? Fais un bisou à tout le monde. Tu dis coucou. Tu dis hasta luego. Tu vois, il y a les Pikachu. Tu vois les Pikachu? T'es un peu fatigué. Tu vas te reposer? Tu vas te reposer. Ok, je viens te voir et on va faire une sieste tous les deux. Ok. Je te lirai une histoire. Ok? Tu vas choisir un book? Ok? Ok. Allez. Bye, Marina. À tout à l'heure. Désolé, les portes ne sont jamais fermées aux enfants ici, du coup ça fait des streams un petit peu interrompus. En tout cas, s'il y a des problèmes de son, ok. On saura d'où ça vient puisque Solal vient d'emporter la moitié de la table de mixage avec lui. Ah, on en était où? Ah oui. Alors, donc il y a des commissions dans certains de ces partis à gauche. En 2018, donc c'était il y a 4 ans, LFI a mis en place un comité de suivi composé de femmes. C'est ensuite une autre commission qui instruit le dossier constitué et peut décider de sanctions. Aujourd'hui, ce genre de dispositif existe partout à gauche. Les écolos ont créé leur cellule dès 2016. Ah, c'était même avant LFI, après l'affaire Denis Baupin. Les socialistes et communistes ont suivi. Ok, bon. Donc ça fait 4 partis avec des espèces de commissions comme ça, sur ces questions. Et Libération écrit, c'est en partie grâce à ces organes que les accusations peuvent pleuvoir aujourd'hui. Et si la gauche est dans la tourmente, c'est probablement parce que la parole s'y libère plus facilement qu'ailleurs. Il n'empêche, le fonctionnement de ces instances... Ah, pardon, je ne vous ai pas mis la scène. Le fonctionnement de ces instances est encore très imparfait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on entend un petit peu du côté, notamment des femmes, des élus de gauche, parce que pour l'instant, les bons hommes, mais ils ne montent pas tellement au front. Ceux qu'on entend pour l'instant du côté de l'EFI, c'est plutôt Clémentine Autain, c'est Mathilde Panot et d'autres, mais surtout des femmes. Et le discours qu'on entend chez ces femmes, c'est écoutez, effectivement, le fonctionnement de ces instances, de ces commissions en interne ne marche pas très bien, mais voilà, on essaye d'améliorer, on est en train d'apprendre. Rappelons, et Libé le dit aussi dans son édition de ce matin, que à droite, du côté du camp de Macron et à l'extrême droite, il y a ces commissions là n'existent pas. Voilà. Donc on est encore plus, si je puis me permettre le terme, encore plus en retard dans ces partis. Je crois qu'il y a un truc qui va arriver chez Renaissance, le nouveau nom de La République En Marche. Je crois. Fin du dossier. Ces dernières années à gauche, l'idée que la politique devait devancer une justice inopérante sur ces sujets a fait son chemin. C'est intéressant, quelqu'un me disait, mais pourquoi ces commissions internes se saisissent de ces affaires et pas la justice? Alors j'ai dit, notamment, parfois c'est parce qu'il n'y a pas de plainte. Et puis parfois aussi c'est parce qu'il y a des plaintes et puis il se passe rien. Hein, sur la question des violences faites aux femmes, vous savez que la plupart des plaintes sont classées, quoi. Ça débouche sur rien. Et donc Libé dit, ces dernières années à gauche, l'idée que la politique devait devancer une justice inopérante sur ces sujets a fait son chemin, mais à force d'accusations contre les leurs, ceux qui étaient si prompts à plaider l'exemple se posent maintenant des questions. Comment assurer les droits de la défense hors du cadre judiciaire? Bah oui. Certains des hommes accusés disent, mais attendez, mais je me défends devant quel tribunal, moi? Quel avocat je peux prendre pour me défendre par rapport à ces accusations? Il n'y a pas de tribunal. Hein? Comment assurer les droits de la défense hors du cadre judiciaire? Question. Doit-on remettre en cause la présomption d'innocence? Parce que les hommes dont on parle là, on est d'accord qu'ils sont un peu présumé coupable là, hein? Alors que en droit, tant qu'on n'a pas été jugé et condamné, on est présumé innocent. Donc là, politiquement et médiatiquement, on parle d'hommes là qui sont un peu présumés coupables. Hein? Comme Elliot écrit dans le chat, le principe du contradictoire n'est pas respecté, notamment sur les droits de la défense. Donc dans ces parties, on se pose la question. Doit-on remettre en cause la présomption d'innocence pour réparer des siècles de violences systémiques tues ? La parole à Sandrine Rousseau. Non, la parole à qui ? Non, la parole à une cadre écolo, qui n'est pas citée, qui est en pointe sur ces questions, qui dit « On doit dire aux femmes qu'on les croit pour inverser une tendance millénaire, mais on ne peut pas pour autant juger les gens sur Twitter. » Et cette personne ajoute « A priori, l'ex de Bayou lui reproche d'être manipulateur. Ça n'est pas bien, mais ça n'est pas interdit. » Voilà. Cette cadre écologiste qui déplore le choix de Sandrine Rousseau d'en parler. J'avais dans un article une analyse de... que je trouve pas, qui est où ? Attendez. Il me manque un article sur cette question. Est-ce que c'est dans l'opinion ? Il me manque un éclairage. Oui, bon, je l'ai retrouvé. Et puis on finira avec ça. Et on parlera ensuite du Covid. Et de cinéma. Et de Star Wars. Et un petit peu de sport, rapide. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est dans l'opinion, j'ai oublié. Caroline Fourest. Alors bon, Caroline Fourest, elle laisse personne indifférent. Essayiste féministe, Caroline Fourest, vous la connaissez pour plein de combats. L'un de ses combats, c'est le féminisme, effectivement. Et elle a un regard intéressant là-dessus, vous allez voir, qui va un peu dans le sens de ce qu'on vient de se dire. Qui dit attention, 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 peut-être aux excès aussi. L'opinion lui demande est-ce que c'est la fin de la présomption d'innocence ? Elle répond il ne faut pas jouer avec le feu. La tendance à dire tu es victime, je te crois, part d'une très bonne intention. Mais le bon slogan ne serait pas de dire « tu es victime, je te crois », le bon slogan serait plutôt de dire « tu es victime, je t'écoute ». Question de l'opinion à Caroline Fourest. La morale occupe-t-elle une place plus grande qu'auparavant depuis le mouvement MeToo ? Elle dit « c'est la culture du silence qui a créé ce besoin de croire à tout prix toute personne se disant victime. C'est un effet collatéral de siècles de silence, de domination, de viol, de pratiques insupportables. Les femmes ont vécu la double peine, les violences et le silence. Aujourd'hui, Des hommes et des femmes sont les victimes collatérales de cette explosion de la parole. Le problème, c'est de vivre dans l'ère de la victimisation. Avant, il y avait une honte d'être victime. Aujourd'hui, ça permet d'exister. Équilibrer les choses demande un effort collectif immense de la part des journalistes et des politiques pour ne pas céder à l'instrumentalisation de ces affaires ni remettre le couvert sur ces pratiques. Pas mal, hein, ce qu'elle dit. Caroline Fourest, c'est pas inintéressant. Je vous lis un petit peu sur ce sujet compliqué. Ah bah oui, bien sûr, dans un monde idéal. Et Lyric, mais je suis d'accord avec toi. Au lieu de créer des commissions qui, au final, ne peuvent pas rendre justice, ne pourrait-on pas revoir justement les mains courantes pour en automatique une enquête judiciaire ? Bah oui, mais c'est ce que demandent celles qui défendent les droits des femmes depuis toujours. Mais pour ça, il faut une réforme de la justice. Il faut aussi des moyens donner à la justice qui n'existe pas aujourd'hui, voilà. Et des directives que n'ont pas les tribunaux, que n'ont pas les commissariats, que n'ont pas les gendarmeries. Donc oui, bien sûr. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille aussi. Donc certains partis ont dit, puisque ça marche pas, nous on fait nos trucs. Et puis on voit bien que c'est imparfait aussi. Je vous lis. Évidemment, la parole est libérée, c'est bien comme ça, dit Indie Case, bien sûr. Je vous lis. Géry S. écrit « Pour juger, la raison fait de plus en plus place à l'émotion et ça, c'est dramatique. » Rafifou écrit « En fait, personne ne va leur mettre d'amende ou les mettre en prison sur Twitter. la présomption d'innocence n'a pas de sens dans ce contexte, c'est un concept juridique uniquement. Et la réputation, et la réputation et l'image d'un homme ou d'une femme abîmée par le tribunal de Twitter, le tribunal de l'opinion, parfois des carrières qui s'arrêtent, parfois des hommes ou des femmes brisés par le procès sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas juridique, mais c'est très réel aussi. Donc c'est pas parce que ça n'est pas strictement juridique ou judiciaire que ça n'en est pas moins mal, quoi. Hein ? Y a pas d'amende, y a pas de peine de prison sur Twitter, mais y a d'autres formes d'amende et d'autres formes de punition par le tribunal populaire. Comme écrit Proxy85, faire une justice entre copains, c'est aussi anti-républicain. On fait justice soi-même. Et ça ouvre la porte aussi à des calomnies, à des fins stratégiques, au mépris de la présomption d'innocence. Alors, c'est un débat qui va très très loin, mais ça nous emmène. Tout sujet nous emmène très très loin. Et là, on va maintenant sur un parcours. Terrain très judiciaire. Gorion écrit « Il n'y a pas de présomption d'innocence dans le cas de Quatennens puisqu'il a avoué les violences. » Il a avoué la gifle, mais alors en droit, même avec des aveux, en fait, le soupçonné est présumé innocent tant qu'il n'y a pas de jugement, de verdict, de condamnation. Pourquoi ? Parce que parfois, ne me demandez pas pourquoi, mais il y a des gens qui avouent des délits et des crimes qu'ils n'ont pas commis. Eh ben oui, c'est comme ça. Voilà. Alors parfois c'est un contexte d'interrogatoire un peu musclé. Bon, l'histoire judiciaire dans tous les pays a montré ça. Voilà, dans les États-Unis, il y a des gens qui sont partis dans le couloir de la mort ou qui ont été exécutés avec des aveux qui avaient été, obtenus de façon un petit peu musclée. Parfois pour d'autres raisons, mais parfois il y a des gens qui avouent des crimes et des délits qu'ils n'ont pas commis. Donc on estime en droit français, en tout cas, que quand il n'y a pas condamnation, la personne est innocente, même en cas d'aveu. Encore Solal qui échappe. À la surveillance des nounous, parce qu'il y a deux personnes à la maison, mais je suis manifestement tout seul à gérer cet enfant de 2 ans et demi. Combien d'adultes, la question c'est, combien d'adultes faut-il pour gérer un enfant de 2 ans et demi dans cette maison ? Je pose une question tout à fait innocente, mais à un moment je soulève thank you, Rodélia. Non, I'm working. Non, je travaille. Papa, il travaille, ok ? Tout à l'heure, je travaille. Fais-moi un bisou. Non, ne mords pas, Rodélia. Non. Tout à l'heure, non. Solal, non. Tout à l'heure, on fait un dodo, d'accord ? Si tu es gentil, je vais demander à Rodélia. Non. Non, ne mords pas. Non. C'est pas possible. C'est vraiment. C'est la vie, c'est les enfants, c'est la vie. Bon, parlons pour cette petite pause. C'est pas possible, il n'y a aucune surveillance de cet enfant, cette maison, c'est pas possible. On s'aime trop avec Solal, il est très câlin, donc dès qu'il sait qu'il y a papa ou maman à la maison, il veut être collé à nous, ce qui est très agréable d'ailleurs, parce qu'il est très câlin, très doux, très gentil, mais le problème c'est que avec le concept de ce stream à la maison avec une porte ouverte, bah du coup, voilà, ça hache le stream, quoi. Mais en même temps, je ne me résous pas à l'idée de fermer la porte à clé, quoi. Je trouve que c'est d'une violence telle, c'est trop violent, quoi. Voilà. Donc voilà, ça fait qu'il vient souvent, d'où cette alerte enfant qu'on met de temps en temps. Bon, quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça. Voilà. Je mets ça de côté parce que dans l'hebdo Étienne, vendredi, quand on va revenir sur l'actualité avec 3 invités sur l'actualité de la semaine, c'est un sujet qu'on va forcément aborder. Alors ça va être marrant de voir. Le regard de gens aussi différents comme Sardoche, comme Monsieur Poulpe, Valérie D'Amédo sur ces questions. Et c'est pas parce que ce sont pas des spécialistes de l'info que le regard ne sera pas pertinent. Je m'attends à une belle émission. Vendredi, 20h, on va se régaler. Le Schnaps, joli pseudo, merci pour le 4e mois. Litchi Sheepdog, merci pour le 13e mois d'abonnement. 8 studios, je crois que je t'ai remercié tout à l'heure, mais je le refais. Ouais. Alors, bon, ça. Je vous le lis pour pas vous le lire. Je m'en fous, je vous l'ai dit tout à l'heure pendant ce moment. Pardon, je vais être vulgaire, mais pour bien faire comprendre mon propos, je m'en carre le cul, mais d'une puissance. On s'en fout. Un article sur les ambitions présidentielles pour 2027. Ouh, il y a machin songe très très fort à être candidat à la présidence. On sent 2027, mais on s'en fout. Vous ne croyez pas que le pays a suffisamment de problèmes aujourd'hui, voilà, pour pas plutôt s'intéresser aux propositions de solutions de l'exécutif, des gens au pouvoir et des propositions alternatives de l'opposition. Oui, oui, un dossier sur l'hôpital, oui, sur l'éducation, oui, sur les violences sexistes, oui, sur que sais-je encore, mais pas sur les ambitions présidentielles 2027. Hein. On s'en bat l'aigle. Voilà. L'après-Macron aiguise déjà les ambitions, notamment dans la majorité à droite, on s'en fout. Voilà, ça, hop, on lit pas, on s'en fout. Aucun intérêt. Je lirai le Figaro tout à l'heure, mais pour le cinéma. Ça, mais on s'en fout. Voilà. Ça, c'est comment dégoûter les Français de la politique. Hein. Si on dit aux Français, la politique, c'est les ambitions, c'est les petits calculs, c'est les messieurs qui songent très fort en se rasant le matin dans leur miroir, ou je sais pas, les dames qui se rasent les jambes en y pensant, c'est vrai que pour l'instant, on a que des référents masculins qui pensent en se rasant le matin. Je crois que c'est Sarkozy qui avait dit ça. Si la politique, c'est ça, les ambitions personnelles, les calculs, le pouvoir, le pouvoir. Plutôt que le débat, la réflexion, l'échange, l'analyse des sujets, des problèmes, les solutions, le vivre ensemble. La politique, c'est ça en fait, c'est trouver les solutions pour vivre ensemble alors qu'on est tous super différents. C'est ça. Mais si on vend la politique aux Français sur le premier volet, franchement, ne vous étonnez pas que les gens n'aient pas voté après. Hein. Hein. Ça n'a aucun intérêt. 49.3 sur les retraites, on en parle quasiment tous les jours. Pas aujourd'hui. Mais on en parle quasiment tous les jours. Ça, c'est intéressant. Le Covid, on en est où le Covid? Ça continue ou c'est terminé? Ah ah, la Croix se demande ce matin si c'est pas la dernière vague. Là, on rentre dans la huitième vague, ok? Le nombre de contaminations depuis la fin de l'été redémarre, ok? Ça repart à la hausse, voilà. Alors, c'est des variants qui sont moins agressifs que les premiers sur les premières vagues, bien sûr. Hein. Moins d'hospitalisations, moins de morts, voilà. Mais des hospitalisations toujours, mais des morts toujours. Et la Croix dit, est-ce que c'est pas la huitième, est-ce que c'est pas la dernière vague? Oui, le nombre de cas report à la hausse en France, mais certains indicateurs laissent envisager une sortie de crise. Alors qu'une huitième vague se profile en France, plusieurs indicateurs laissent entrevoir dans le monde une sortie de l'épidémie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'épidémie serait proche de la fin, selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé, voire déjà terminé, selon le président américain Joe Biden. Bon, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Déclarations qui sont quand même faites en haut lieu, qui envoient un message d'optimisme, alors que les cas de Covid repartent à la hausse pourtant en France, au risque, alerte les épidémiologistes, de démobiliser les populations. Il y a certains scientifiques qui disent mollo, mollo, mollo sur le message disant que c'est terminé. La Croix qui a écrit ce matin, il y faudrait moins pour s'y perdre. Il y a deux mois à peine, le directeur général de l'OMS lançait un message d'alerte, on en avait parlé ici. La pandémie de coronavirus, disait-il, était loin d'être terminée. Ça restait une urgence de santé publique, de portée internationale. La rentrée est venue, le même homme est désormais plus optimiste que jamais. Et il dit, le patron de l'OMS, nous n'avons jamais été dans une meilleure position pour mettre fin à la pandémie. Voilà. Tout en invitant à ne pas crier victoire trop tôt. Il dit, si nous ne saisissons pas cette opportunité donc de mettre fin à la pandémie, nous courons le risque d'avoir plus de variants, plus de morts, plus de perturbations, plus d'incertitudes. Donc il dit, on n'est pas loin de la fin, à condition de rester mobilisé. La nuance est importante. Joe Biden ne prend pas de pincettes. Le président américain, il a déclaré récemment, si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque et tout le monde a l'air en plutôt bonne forme, a déclaré Joe Biden. À l'expert, doute un petit peu de la qualité de ce diagnostic de Biden. La Croix en doute aussi un petit peu. Biden qui affirme sans détour outre-Atlantique, le Covid, c'est terminé, c'est fini. Voilà ce que dit Biden. Et La Croix ajoute, dans un pays où l'épidémie tue encore plus de 400 personnes par jour, ses propos n'ont pas manqué de choquer. Ce discours est d'autant plus surprenant qu'il a demandé au Congrès une rallonge budgétaire de 22 milliards de dollars pour la lutte contre le Covid il y a à peine deux semaines. C'est un épidémiologiste qui s'appelle Yves Copieter qui dit ça. Aussi, l'affirmation du président américain doit-elle être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un message avant tout politique, à quelques semaines des élections de mi-mandat, les élections de mid-term. L'épidémiologiste que je viens de citer rappelle que le combat contre une pandémie ne se gagne en plus pas tout seul dans son coin. Hein. Une pandémie est définie comme plusieurs foyers épidémiques dispersés sur plusieurs continents au même moment. Parler de la fin de la pandémie de Covid-19 dans un pays, les États-Unis par exemple, ça n'a aucun sens. Hein, puisque si c'est présent dans d'autres pays, ça finira forcément par revenir. Y mettre un terme nécessiterait par ailleurs des investissements dans les pays moins développés où l'accès aux vaccins et aux traitements reste très limité. Donc le propos de Biden, on le met, on va dire, entre parenthèses. Alors, donc là c'est les chiffres en France, la hausse des cas, ok, qui revient, après l'été, la rentrée des classes, tout ça, ça a joué. On a une huitième vague qui arrive. Toutes les modélisations montrent un rebond des contaminations là à l'automne, même s'il reste difficile d'anticiper l'ampleur. Mais à moins d'un nouveau variant, bien la situation devrait rester rassurante. La population est largement immunisée, que ce soit par la vaccination ou par des précédentes contaminations. Épidémiologiste et président de la cellule Covid de l'Académie de médecine, Yves Buisson, le professeur, signale deux autres raisons majeures de se réjouir. Un petit peu d'optimisme ne fait pas de mal. D'abord, un impact limité sur la saturation hospitalière malgré les rebonds, donc les hôpitaux ne sont pas surchargés de patients Covid en ce moment. Certes, ça n'empêche pas la circulation des virus, mais cela limite les formes sévères et donc les hospitalisations. La fameuse immunité collective, à laquelle certains ne croyaient plus, semble arriver. Donc ça, c'est le premier point positif. Autre point positif, l'absence de nouveaux variants, pour l'instant. Nous sommes sortis, du moins pour le moment, du renouvellement permanent de variants dans lesquels nous étions depuis le début de l'épidémie, ce qui ne veut pas dire que l'épidémie est terminée, rajoute-t-il. Alors, question, est-ce qu'il faut continuer à se faire vacciner ? Ah ah ! Ah ah ! La vaccination reste un allié de poids. En France, la dernière vaccination contre le Covid remonte à au moins 6 mois pour plus de la moitié des citoyens. Et comme avec le temps, l'immunité vaccinale diminue, nous allons, dit un médecins, très logiquement, voir des nouvelles poussées. Les vaccins, notamment, peuvent nous permettre de limiter ces rebonds. Ce qui a porté demain la fin de l'épidémie n'est donc pas la fin de l'épidémie, mais son rapprochement progressif d'une résurgence saisonnière, un petit peu comme la grippe, avec des pics épidémiques hivernaux, et le besoin de protéger les personnes les plus fragiles grâce à des vaccins qu'on adaptera en fonction de la souche du virus qui circule. Ah, mon petit soleil qui est en colère, je ne sais pas si vous l'entendez. À la question, est-ce qu'on va avoir encore besoin des vaccins ? Les médecins disent oui. Pour les plus âgés, pour les plus fragiles, on va avoir besoin de vaccins. Nous avons ces nouveaux vaccins qui arrivent, qu'on appelle les vaccins bivalents. Bivalents, parce qu'ils prennent en compte la souche originelle du Covid, du virus de Wuhan, et les derniers variants, notamment d'Omicron. Donc, pour ces populations, les plus âgées, les plus fragiles, on devrait encore avoir besoin des vaccins pour les protéger au mieux. C'est la fin de l'article, dit le médecin. L'arrivée de nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron dans le courant du mois. Je crois que l'autorité sanitaire en France vient tout juste de donner son feu vert. C'est aujourd'hui ou hier. Est une très bonne nouvelle et permettra de protéger au mieux les populations. Voilà, on en est du Covid. Oui, vous avez entendu Solal crier, d'accord. Okay. C'est mon petit Solal. Caractère, gentil mais caractère. Alors, je voulais un petit peu sur le Covid. Je pense que ça peut aller vite. Je vais lui faire un bisou, Solal. Ah, vous l'avez entendu, Solal ? Il crie comme un tigre. Je le kiffe. On arrête de boire de la Javel. Sandrine demande si on peut arrêter de boire la Javel. Je pense que oui. Est-ce que je vais me faire un petit... Je vais aller faire un bisou à Solal. Je vais me faire un petit café. 2 heures de stream. Et on va finir sur du beaucoup plus léger, du sympa. On va parler cinéma. Je vous montrerai rapidement l'équipe sur le... Je montre le Parisien. Mais surtout, on va parler de cinéma parce que c'est mercredi. XGX, je vais te répondre dans un instant. On va parler cinéma parce que c'est mercredi, c'est le jour de sortie ciné. Et il y a un film qui met un peu tout le monde d'accord avec Virginie Efira, Les Enfants des Autres, qui a l'air assez touchant, une réflexion sur, sur le rôle des beaux-parents. Voilà. Et on ira voir la bande-annonce. Et puis on parlera aussi d'Andor. Vous savez, la dernière série inspirée de Star Wars qui vient d'arriver sur Disney+. C'est arrivé depuis ce matin, je crois, en France. Donc on ira voir, je sais pas, genre une bande-annonce si on en trouve. Pour voir ce que ça vaut. En tout cas, le Figaro a adoré. Voilà. Peut-être que certains ont déjà commencé à regarder. Je vais me faire un petit café, enfin un petit déca, parce qu'en fait, je fais une toute petite sieste après. Et puis, et après, il faut que je me prépare, parce que ce soir, je vais chez Monsieur Poulpe. Le live commence à quelle heure ? Vous m'en trouvez ce soir chez Monsieur Poulpe ? On va dire n'importe quoi. Quelle heure ? 19h. Donc j'ai un taxi qui vient me chercher à 17h30, je crois. Voilà, donc mini sieste. Voilà. 19h sur la chaîne Twitch de Monsieur Poulpe avec la grande dame, avec Melo, Coco et Verino. On va notamment faire un concours pour de celui qui bouge ses oreilles tout seul le mieux. Parce que je sais, voilà, j'ai proposé ce concours parce que je sais bouger mes oreilles. Vous savez bouger vos oreilles ou pas? Tout seul. Vous savez ou pas? Moi, je sais bouger mes oreilles. Non, oui, non, oui. Ah, il y a plein de oui. Il y a plein de gens qui adorent la grande dame. Moi, je vais la découvrir ce soir. Je vais la rencontrer ce soir. Ah, vous êtes plein à aimer la grande dame, c'est cool. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Poulpe, c'est un piège. Oh, mais j'ai fait des choses avec Poulpe, je le connais bien. C'est ça que j'aime, justement. C'est que c'est n'importe quoi, je kiffe. Ah, c'est trop facile. Ah, merde. Parce que moi, c'est mon seul talent, moi. Normalement, tu seras dans l'équipe de la grande dame. Alors, ce qui va poser un problème de cadrage, vu ma taille et la taille de la grande dame, notamment sur talon, je pense que ça va poser un problème de cadrage. Mais je serais très content d'être dans l'équipe de la grande dame. D'accord. Donc, en fait, le fait de savoir bouger mes oreilles, je vois que ça ne vous impressionne pas du tout. Faites-moi penser à vous parler de ça aussi. Je suis en train de kiffer ça. Donc c'est pas sur Disney+, c'est sur Netflix. Je viens de découvrir ça, c'est arrivé il y a quelques jours, je crois, la série inspirée du jeu vidéo Cyberpunk, voilà, Edge Runners là. Depuis deux nuits là, le soir, je regarde ça pour m'endormir. Je kiffe. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok. Allez, je vais me chercher un petit déca. Je vous mets deux minutes de musique. Je me dépêche. Et je vais faire un bisou à Solal. Ok. J'espère qu'il sera moins bourré qu'hier, Monsieur Poulpe, dit Viniro. Ok. Je vous mets. Je ne sais pas si j'ai remercié Manur6S et SuperOrdi45 pour les subs, mais je vous remercie. Je vous mets deux minutes de musique, deux minutes de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je reviens avec un DK. On parle de cinéma, on parle de cyberpunk, on parle de plein de trucs. Ok, à tout de suite. Musique. Yes. Go! Pas terrible ça. Il chante faux, non ? C'est moi ou il chante faux le monsieur là ? Hein ? Ouais, bof. Je pense que celle qui nous servira pour le. Pour le raid, tout à l'heure sera mieux. Ouais, c'est mieux ça. Pour le raid, tout à l'heure, on prendra ça. Désolé, j'ai fait une petite pause, mais rapide, un petit déca, donc. Alors, sur le chemin du déca, j'ai vu Solal. Voilà, je lui ai dit... oui, je sais que Samuel qui dit à un chanteur qui chante faux, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ça n'est pas très gentil de dire ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai vu cela, je lui ai dit qu'on allait faire une petite sieste tous les deux, il était super content, il était tellement gentil. Et puis, je me suis fait un petit déca, qui est là. J'ai mangé un bout de pain parce que le pain c'est la vie, hein. Vive la baguette, vive la France. Et puis, j'ai regardé les audiences de France Info, attention. Page de publicité pour... ma chaîne info préférée, celle où je travaille, celle où je présente la matinale. Vous m'autorisez une page de pub ou pas ? Hein ? Une page de pub ? Page de pub ? Je peux ? Oui, je peux. Vous m'autorisez une petite page de pub ? Il y a Dudu qui dit non. Il y a Temo qui dit pas d'exception, alors qu'on sort d'une page de pub d'Amazon. Moment flex, allez, c'est assumé. France Info, c'est la radio depuis très longtemps. C'est la télé depuis quelques années seulement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans seulement. C'est la dernière née des chaînes info. Voilà, c'est la petite chaîne info. C'est la meilleure. C'est une chaîne info de service public où, je crois, on cède un peu moins à l'accélération du temps info et à vous dire un truc à 8h et puis un autre truc à 8h30 un peu différent parce qu'on est allé un petit peu vite. Voilà. J'aime cette chaîne, j'aime cette matinale, j'aime cette équipe. Je crois qu'on fait du bon travail et j'ai reçu mes audiences à 11h puisque tous les matins à 11h, à 9h, tiens, c'est bizarre, j'ai pas eu mon audience de questions pour un champion. À 9h, je reçois mon audience de questions pour un champion. Et à 11h, je reçois mon audience de France Info. Et à 11h, eh bien, il est marqué que nous avons fait 5,8% le matin sur notre matinale. Voilà. Et c'est très très bon. Voilà. Puisque pour cette chaîne info qui est la dernière, née, voilà, qui est aujourd'hui la dernière en termes d'audience, notamment pour cette raison, et aussi pour des raisons d'exposition, puisque nous sommes très très loin sur le canal 27, c'est introuvable. Voilà. On a ce fardeau du mauvais numéro comme LCI qui est sur la chaîne 26, nous on est sur la 27, donc très très loin de BFM et de CNews. BFM c'est 15, je crois, c'est ça. Donc c'est un vrai fardeau, partagé d'ailleurs avec nos confrères de CNews. Et donc, on part de loin et pourtant, on grignote, on progresse tous les jours. Et notamment la matinale de France Info, voilà, qui, là, par exemple, est... Alors nous, on est 3e sur 4 le matin, donc on disait on n'est pas 4e, puisqu'on est devant LCI depuis très longtemps déjà, et on est en train de fondre sur CNews comme un aigle, sur un petit lapin apeuré dans la plaine. Voilà, 5,8 ce matin, 5,9 pour nos concurrents de CNews. L'audience n'est pas tout. Mais c'est très important parce que tu ne peux pas faire de la télé si personne ne te regarde à un moment. On te dit, on te ferme le robinet. Donc c'est important aussi. Et ça veut dire quelque part qu'il y a de plus en plus de gens qui te regardent. Voilà. Quand j'ai commencé cette matinale, on était autour de un peu moins de 3% le matin de part d'audience, qui n'était pas beaucoup. On est en train de se rapprocher des 6%. Et on est en train... L'objectif, c'est très immodeste, hein, mais c'est aussi parce que j'aime beaucoup cette équipe et que j'essaie de les accompagner du mieux que je peux. L'équipe avec qui je travaille le matin, qui sont vraiment des gens hyper sympa et hyper engagé et hyper professionnel, c'est de les amener et les faire devenir d'ici juin deuxième chaîne info sur 4, alors qu'on est vraiment parti de très 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 loin. Voilà. Ils le méritent, donc page de pub, tous les matins, canal 27, c'est tout au bout là, perdu là. Tu vois ta télécommande, tu vas tout droit, tu marches 2-3 km, tu prends à droite, voilà. Là il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, tu traverses un petit peu, il y a un grand virage, tu vois, il y a une petite épicerie sur le côté, c'est le canal 27, c'est très très loin, tu regardes, canal 27, 6h30, 8h30, tu vois, c'est comme ici, c'est juste que c'est choral, il y a plus de gens, il y a Malik le Red Chef, il y a Virginie à l'édition, Nathan à l'édition, t'as David Delos le spécialiste économie, t'as David Lefort le spécialiste science, t'as Alix Bouyégué pour la politique, t'as Alix Doge pour... la culture, c'est des gens formidables. Voilà, c'est sur la TNT, canal 27, c'est sur les box, c'est partout. Et objectivement, bien sûr, c'est très objectif, c'est la meilleure matinale ever. Par contre, là-bas, il n'y a pas de chat, tu peux pas parler. Pomme, je le reconnais. Mais en même temps, c'est bien. Voilà. Et puis, on est aussi sur France 2 de 6h à 6h30. Fin de la page de pub. Mercredi. On est. Merci Sylvirus34 pour le sub. Merci Bayer les Vercusec. Que devenais-tu? Merci pour le 9e mois d'abonnement. On va parler de cinéma parce que c'est mercredi. Et qu'il y a des sorties ciné. Et qu'il y a un film qui met tout le monde d'accord ce matin. Qui était à la une de Libération, je vous ai montré tout à l'heure, Virginie Efira. Et qui a un beau papier aussi dans Les Échos ce matin. Voilà. J'ai lu Les Échos. Il n'y a rien de très éco-financier qui m'a intéressé. Mais il y a un papier sur ce film qui s'appelle Les Enfants des Autres. Il y a un moment, je me suis dit, mais quel est ce film qui met tout le monde d'accord? Le Figaro aime bien, Libération aime bien, Les Échos aiment bien. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film? Alors, on va lire un petit peu le papier des Échos, là, qui est signé Olivier de Bruyne. Et on va essayer de trouver un petit extrait, une petite bande-annonce de ce film. C'est un film français, en plus. Je parle pas souvent du cinéma français. Moi, j'aime bien notamment les films de super-héros, et puis j'aime bien aussi les animés. Donc, pour une fois que je parle d'un film français, let's go. Voilà. J'adore, il y a Raoul qui écrit oui, film français, mais bien écrit et bien mis en scène. C'est Rebecca Zlotowski, qui est une super réalisatrice, qui signe ce film, Les Enfants des Autres. Rebecca Zlotowski qui dresse le portrait, écrit, veut les échos, bouleversant, d'une héroïne, d'une femme, sans enfant, qui se prend d'affection pour la fille de son nouveau compagnon, qui est jouée par Roche Dizem, la maman étant jouée, enfin la maman, la belle maman, justement, étant joué par Virginie Efira, dans l'un des plus beaux rôles de sa carrière. Moi, je kiffe Virginie Efira, je me dis, si c'est l'un des plus beaux rôles de sa carrière, alors let's go. Ils ont déjà une vie sentimentale derrière eux. Donc ça, ça parle pas que de cinéma, ça parle aussi des familles recomposées. Ils ont déjà une vie sentimentale derrière eux, voire plusieurs, mais leur rencontre les fait chavirer comme deux adolescents éblouis. Rachel, une enseignante d'une quarantaine d'années, navigue dans l'existence en composant tant bien que mal avec sa solitude, sa non-maternité aussi. Volontaire, ennemie jurée des Jérémiades et de la complaisance, l'héroïne tombe amoureuse d'Ali, un homme séduisant et délicat, qui vient de se séparer de sa compagne et qui, une semaine sur deux, élève en solo sa petite fille de 4 ans, Léa. Léila, pardon. Enivrés par leur idylle naissante, Rachel et Ali profitent d'abord pleinement de leur passion et de leur intense complicité intellectuelle et sensuelle. Au fil des semaines, leur union se consolide et Rachel, avec la pudeur qui la caractérise, fait état de son désir de rencontrer Léila, cette gamine qui jusqu'alors demeurait dans l'ombre du duo. Ali accède à sa demande et bientôt Rachel se prend d'affection pour cet enfant qui vient combler tant de manques dans sa vie au risque de mettre en danger son histoire d'amour et de se mettre en danger elle-même. Et là, c'est le moment où on va aller se trouver une petite bande-annonce. Hop là ! Let's go ! Bande-annonce. Je prends mon clavier de gamer. Comment ça s'appelle ? Les enfants des autres. Ok. Ah, YouTube. Pub, ça on s'en fiche. On s'en fiche. C'est une pub pour une moto allemande. Ah, une époque, c'était ma passion. Et puis, je m'intéresse moins aux motos. Je m'intéresse plus aux enfants maintenant. Cette phrase est bizarre en contexte, mais je parlais de la paternité, du fait que depuis que je suis père, je roule moins en moto. Voilà. C'est vrai que la phrase « je m'intéresse moins aux motos, plus aux enfants » hors contexte, elle est super bizarre. Je voulais dire que ma paternité, le fait que j'étais père, fait que je roule moins en moto qu'avant. Ok ? Toujours précisé, quoi. Quand même. Alors, le son, ça devrait aller. Vous êtes prêts pour la bande-annonce ? Et... Tac ! Allez, comme c'est calé, c'est magnifique. Bande-annonce.
Allez, vous pouvez tout sortir dans le calme, s'il vous
plaît. Et toi, Rachel ? Pour les stages, t'as rempli le tableau ?
Ah non, j'ai pas rempli le tableau. Mais j'ai quelqu'un.
Une description ?
Ah, 1m95.
Je suis amoureux de toi.
Et une petite fille de 4 ans.
Il est parti.
Ah, c'est elle qui l'a quitté.
Papa, tu vieillis mal, hein ?
Je
veux la rencontrer. Je veux rencontrer Léla.
Ça n'a rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois.
Bonjour. À quel âge, Léla ?
4 ans et demi.
Waouh ! Tu veux faire un petit bisou ?
Ça va, mon cœur ?
Oui !
Bonjour Alice, moi je suis Rachel.
Maman.
Bonjour Rachel. Alors oui, les bisous, les bonjours à Rachel.
Pourquoi Rachel est tout le temps là ? Moi je veux qu'elle s'en aille.
Mais si tu crois un jour que...
Elle a 5 ans.
On va t'apprendre qu'à cet âge-là, ça va absolument rien dire.
C'est vrai que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Je resterai une figurante ?
Exagère. Moi aussi, je suis piégée.
Tu veux encore des enfants ? Pas de problème, c'est quand tu veux, toi, dépêcher de quoi, toi ? Pour moi, c'est trop tard.
Si vous voulez un enfant, c'est maintenant.
Oui, on verra. La vie courte et longue.
Oui, la vie est longue.
Ok. Moi, j'ai cette bande-annonce m'a donné envie d'aller voir ce film. Je dis ça, j'irai sûrement pas le voir, vu que j'ai zéro temps dans ma vie. Mais... Je sais pas. Et puis, cette réflexion sur l'amour maternel ou quasi-maternel d'une belle maman pour un enfant auquel elle s'attache, qui n'est pas tout à fait le sien, je sais pas, c'est intéressant. Et puis, c'est Virginie Efira. Maintenant que je vous ai montré la bande-annonce, vous avez aimé ou pas ? C'est un film pour les 35 et plus. Il y a Tsuka qui se moque de moi, en fait, là. Le cinéma français égal à lui-même. Oh, vous êtes méchant ! Ça me hype pas du tout, dit Adrian. Oh, je passe mon tour, dit Geek Library. Oh, oh. Ça, c'est pas faux. Il y a Bulldozer qui écrit, ça me fait beaucoup rire. Toujours l'impression que les films français sont tournés dans les trois mêmes appartements à chaque fois. Avouez qu'elle est bonne, je la relis. Il y a Bulldozer qui écrit, toujours l'impression que les films français sont tournés dans les trois mêmes appartements à chaque fois. Elle est bonne. Ouais, c'est vrai. J'avoue, elle est très bonne. Ouais. Bon, tout le monde n'est pas convaincu. Je vous lis quand même la suite de l'article. Les enfants des autres, caméra zénitale, qui, en radiographiant le mal de belle-mère, le mal de mère, le mal de belle-mère, se distingue par sa finesse, sa rigueur et sa sensibilité. Rachel est une femme d'une lucidité à toute épreuve. Elle sait en son fort intérieur que Leïla ne sera jamais sa fille, qu'elle ne doit surtout pas la considérer comme telle. Néanmoins, elle souffre de cette impossibilité. Et l'héroïne lutte, parfois avec d'inévitables maladresses, pour trouver sa place dans sa famille de cœur et ne pas se voir réduire au statut de figurante. Sans jamais sombrer dans le psychologisme et en suivant au plus près Rachel dans son parcours amoureux et professionnel, Rebecca Zlotowski, la réalisatrice, met en scène l'histoire simple et bouleversante de son héroïne avec une justesse qui rappelle parfois Claude Sautès, qui n'est pas rien. Du premier au dernier plan, la cinéaste aussi inspirée quand elle met en scène l'ivresse sentimentale de ses personnages ou les dialogues entre Rachel et Leïla, excelle à enregistrer ces petits riens qui font parfois les plus beaux films. Voilà, donc c'est pas forcément très impressionnant cette bande-annonce, mais peut-être que le film est quand même super sympa. Moi, je suis pas sûr de vous avoir convaincu là-dessus. Je vous lis un petit peu quand même. Ah putain! Il y a Bayer Leverkusen qui tire à balles réelles dans le chat qui dit « C'est pas ici que tu vas trouver des gens qui aiment ce genre de film. Les jeunes, à part les Marvel et les films de bourrin avec 50 effets spéciaux, ils aiment rien. » Oh la vache! Ah, Jedi Guild Entertainment, donc on se demande quel genre de film tu aimes. Écrit, parce que toi tu sais tout bien sûr, et la vie est un vaste complot et nous sommes enduits en erreur par toutes ces forces occultes de l'argent. Jedi, donc, qui sait que ce n'est pas un article du tout, c'est un article. Ils ont payé une page pour qu'on parle de leur film. Alors, tu ne me croiras pas, et pourtant je vis de ce métier depuis 25 ans, et ça fait un quart de siècle que je traîne dans les rédactions. Mais en France, on n'achète pas les articles. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Alors peut-être que, je ne sais pas où tu t'informes, peut-être que dans les médias que tu... les journaux que tu lis et les chaînes de télé que tu regardes, peut-être que les rédactions sont achetées par les annonceurs publicitaires. Dans les journaux que je lis, les articles ne sont pas achetés par les marques. Voilà. Si tu le crois, pour les journaux que je te lis, hein, tu te trompes. Si tu le crois, c'est que tu ne sais pas comment fonctionnent les rédactions. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et un journaliste digne de ce nom, et je ne connais que des journalistes de ce type-là, s'ils reçoivent un coup de fil pour qu'on leur propose de l'argent pour écrire un article par une marque, eh bien ce journaliste y raccroche. Voilà, c'est comme ça. Et si jamais un journaliste de ces journaux de qualité le fait un jour et que c'est découvert par le reste de la rédaction, je peux vous dire qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Dans les journaux que je lis, hein, bien sûr. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle du public reportage. Donc ça, c'est un truc. Ça ressemble à un article. C'est l'odeur de l'article. C'est présenté comme un article, mais ça n'est pas un article. C'est un public reportage. Et ça, c'est de la pub. Et c'est obligatoirement écrit. À un moment, en haut ou en bas, c'est marqué communiquer, publier reportage. Voilà, ça c'est... voilà. J'adore, il y a Rafifou qui me dit « Mais le journal de Mickey a clairement été payé pour certains articles par Disney. » Alors, je ne vous lis pas le journal de Mickey. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais merci pour la propale. Voilà. Donc, non. Qu'on aime ou pas le film, qu'on aime ou n'aime pas cet article, ça n'est pas payé par le film. En France, ça ne marche pas comme ça. Pas avec les journalistes que je connais. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais c'est mon expérience de journaliste qui parle. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Jamais. Après, il y a peut-être des médias qui font ça en France, mais ce n'est pas les médias dont je vous parle. Pourquoi la chanson? Pourquoi vous êtes plein à dire la chanson? Est-ce que quelqu'un aurait, avec ses points de chaîne, débloqué une chanson, c'est ça? C'est ça, il y a une histoire comme ça, j'ai loupé un truc là. La chanson, me dit Olive Big et j'ai vu d'autres en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça, il y a quelqu'un qui a balancé 154 points de chaîne. Eh oui, mais je ne chante plus, bordel. Je ne chante plus, je suis en pause de chansons. Non, pas de chaussons, de chansons. Ouais. La chanson de la bande-annonce? Non, non, mais je pense que voilà, quelqu'un a dépensé 150 000 points de chaîne pour... oui, dans ce cas-là, je dois chanter une chanson. Mais c'est vrai que je suis en pause de chanson. Ah, voilà. Mais je le ferai. Mais mettons ça de côté et je me rattraperai pour toutes ces chansons non chantées. Promis. À un moment, ça va revenir. Je vais vous recasser les oreilles avec ma voix de fausset, c'est sûr. C'est Olive qui a demandé Sacha Distel? What? Mais je me rattraperai. Bon, l'équipe, non. Parfois, dans l'équipe, il y a tout à lire, là, rien qui m'a passionné. Juste des bonnes nouvelles du côté de l'équipe de France de football. La grande forme d'Ousmane Dembélé et de rien Tchouaméni. On est à 2 mois de ce mondial de football, dont on parlera notamment pour savoir si on doit le boycotter ou pas. Merci Magdar 18. Ça me fait bien plaisir. Mais là, bon, il n'y a rien de spécial. Sinon que l'équipe de France va pas fort et que mais il y a deux joueurs qui sont plutôt en forme. Bon. Non. Ça, je voulais vous en parler. Ça. Andorre. Pas la principauté d'Andorre entre la France et l'Espagne. Andorre. Cette nouvelle série dérivée de Star Wars qui vient d'arriver ce matin, si je dis pas de bêtises, en France du côté de Disney+. Andorre, l'âme rebelle de Star Wars. Série dérivée du film Rogue One, pour être tout à fait précis. La série Andorre, est-ce que certains l'ont vu ou pas, est la meilleure nouvelle qui soit arrivée ces dernières années. What? Eh, prenons le temps. La série Andorre est la meilleure nouvelle qui soit arrivée ces dernières années du fin fond des galaxies lointaines, très lointaines. Quoi? La meilleure? Autonome, furieusement indépendant, le show d'anticipation et d'espionnage développé par Tony Gilroy, le scénariste de La Mémoire dans la peau, tient brillamment ses promesses. Pop. Il y a Tenry qui écrit « J'ai voulu regarder Andorre, mais je me suis endormi. » Excellent. Ça a l'air très optimiste, cet article. Est-ce que c'est aussi bien que ça? Diffusé sur Disney+, à partir du 21 septembre. Quel jour sommes-nous? 21 septembre. Elle suit le destin de plusieurs personnages du film Rogue One. Ok, ça je me rappelle l'avoir revu récemment. 5 ans avant la mission suicide du vol des plans de l'étoile noire, dont profitera la princesse Leia. Au tout début de Star Wars 4, donc 77. Dans le film d'après qui en fait était avant, enfin bref, vous suivez je pense. Avec l'aide d'un mentor qui risque gros, Stellan Skarsgård, le héros Cassian Andor, Diego Luna, l'acteur formidable, orchestre la résistance contre l'Empire. Réaliste, tendu, la série plonge dans l'univers de l'espionnage en temps de guerre. Le comédien qu'on voit ici, Diego Luna, répond en exclusivité aux questions du Figaro, sachant évidemment que ça a été acheté par Disney+. Cet article. Avant toute chose, dit l'acteur, il faut préciser que dans Andorre, on ne parle pas de Jedi. Ah bon? Bah, zut. Il n'existe aucune connexion mystique ni de pouvoirs spéciaux. Ah bon? Bah merde. La série montre d'où surgit la part héroïque qui se trouve en chacun de nous. Ah, ok. En quoi l'atmosphère? On va aller voir une bande-annonce que j'ai pas vue encore. Surprise. J'espère qu'il n'y aura pas de quoi se faire ban parce que c'est chaud. En quoi l'atmosphère de la série est-elle différente de celle d'Obi-Wan ou de Mandalorian, que j'ai bien aimé? Elle s'apparente plutôt à celle des thrillers d'espionnage ou celle des films noirs. Bon. Vous en pensez quoi? Très bonne question. Il y a Seb qui dit ça parle de Star Wars quand même? Oui, ben je me pose la question, moi. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que certains l'ont vu? Est-ce que certains l'ont vu ce matin? Parce que ça, il paraît que c'est diffusé depuis ce matin. Ouais. 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 Est-ce que moi, je veux savoir si quelqu'un l'a vu ce matin. Vu ce matin, je me suis ennuyé, dit Lenglen. Ok. Non, Fox Mac l'a pas vu. Pas encore Fugizal. Bon délire, Niklos, t'as vu? Trop de Star Wars, j'aime bien, mais là, il y a overdose, me dit Galactic Hermit. Ouais, ouais, Arcotic, j'ai vu. Moi aussi, je me suis interrogé sur ce reportage. On va pas avoir le temps d'en parler, mais moi aussi, je me suis posé des questions sur ce monsieur qui roule à l'éthanol sans boîtier. On a eu un débat dans la rédaction là-dessus, on trouvait ça assez surprenant. Programmé pour ce week-end. C'est souvent les meilleures séries quand on s'éloigne des Jedi, malheureusement, dit Mr. McGrove. Ah, oh, j'aime bien les Jedi, moi. Il y a Jia qui dit « J'ai vu les 4 premiers épisodes pour rédiger ma critique. » C'est toi qui as écrit l'article ? Est-ce que l'auteur de cet article est avec nous ? Eh, Jia, c'est toi qui as écrit cet article ? Olivier Delcroix ? Oh, c'est un, en plus, c'est quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup. Spécialiste de plein de choses, de culture, de bande dessinée. Olivier Delcroix, c'est toi ? Olivier Delcroix, tu es Jia 366 ? Ou alors t'as fait une critique pour un autre journal. C'est vachement bien ça. Ce serait drôle. J'aime pas ce qui est devenu Star Wars, pas d'argument, juste je passe pas de bon moment. Cylindre d'air, il y a air, hein, chacun son avis. S'il n'y a pas Dark Vador, j'y vais pas, me dit Anarchis. J'adore, il faut juste que ma soeur renouvelle son abonnement Disney+, me dit Rafiti. J'en connais d'autres. Ah, source hallucinée, me dit écrivain. Andor est sans aucun doute la meilleure série Star Wars à ce jour. What ? À l'instar de Rogue One, considéré par bon nombre de fans comme le plus réussi des films Star Wars produits par Disney, cette nouvelle production se démarque des autres séries live action précédemment diffusées. The Mandalorian, j'ai bien aimé. Le livre de Boba Fett, bien aimé, moi. Obi-Wan Kenobi, un peu moins bien aimé, moi. Pour son côté plus sombre et plus mature. Ah ouais, plus sombre et plus mature, c'est pas pour moi, ça. Mature, pas pour moi, ça. Pas sûr. Ah, Olivier Delcroix, j'ai bossé avec lui au Figaro, c'est un amour, me dit Matt a perdu Matic. Eh ben oui, c'est un amour, je suis d'accord. Olivier Delcroix, il est connu pop culture, ouais, il est très fort, Paul Delcroix. Bonne annonce. Comment s'appelle ce truc ? Andor. On va pas s'endormir là-dessus quand même. Excellent. Bonne annonce. Et après, on fait un raid et je vais faire une sieste. Et après, je me prépare pour Poulpe. Bon, ça. VF, j'aime bien les bandes annonces en VO, moi je suis chiant. Ouais, je veux VO, moi. Moi, je vous mets. J'aime bien VO. Je suis chiant avec ça. En dehors, VO sous-titré FR. Je suis chiant, hein. Alors, je crois que j'en ai une là. Dieu. Alors, si je fais ça, non, ça c'est trop gros, je pense. Attends, si je fais comme ça peut-être, non, ça c'est trop gros. Voilà, là c'est bien. Oh, c'est de la ASMR, vous êtes prêts? Attention, je vous mets en dehors. Vous êtes prêts? Attendez, je vous mets le truc. Ok. Vous êtes prêts? Je me tais. On regarde.
Steal from the Empire? To just walk in like you belong? They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. Cassian Andor. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? I need all the heroes I can get.
For the greater good.
Call it what you will.
Let's call it war.
There's fermenting out there, son. Pockets are fermenting. You're in my net.
Are you a fish? Or are you a thief?
You're slipping.
I'm not slipping. I've just been hiding for too long.
As long as everyone thinks I'm an irritation, there's a good chance they'll miss what I'm really doing.
What are you really doing?
This is what revolution looks like.
I'm tired of losing.
Cool ou pas cool? Moi je dis cool, moi je dis que j'ai envie de regarder. Et c'est moi où j'ai vu Forest Whitaker? C'est moi où j'ai vu Forest Whitaker quelque part? Peut-être après. Parce que s'il y a Forest Whitaker, eh ben, on regarde. Vous aussi vous avez vu Forest Whitaker? Vous aussi vous l'avez vu? Où est-ce qu'il est? On l'a vu, on le cherche. On vérifie toujours l'information. C'était fugace. C'était rapide. Il était là, il est là, il est où? Où es-tu? Ok. Donc, ah mais oui, t'es dans Rogue One, c'est vrai. Ah, c'était court d'ailleurs. Oh bah ouais, donc on regarde déjà, parce qu'il y a Forest Whitaker. Hein? J'espère qu'il restera plus longtemps, hein? Parce que c'était court dans Rogue One. S'il y a Virginie Efira, je regarde. Alors s'il y a Virginie Efira, j'arrête le stream tout de suite et je regarde. Virginie Efira, si jamais vous êtes dans le chat ce matin sur ce stream, envoyez-moi un DM sur Twitter et on sera très heureux de vous recevoir ici pour une rencontre Étienne spéciale Virginie Efira pour parler toute votre carrière et voilà et pour vous dire tout l'amour que cette communauté a pour vous. Vous pouvez clipper ça et lui envoyer. Voilà. Bon, bah, on va regarder en fait. Forest Whitaker aussi. Forest Whitaker, if you watching this stream on Twitch, you're welcome for la rencontre Étienne. At home, voilà, with Solal, Malo, Hélène, and the chat. Je suis un peu triste parce que j'ai une grande vedette. Enfin, quelqu'un que j'aime beaucoup du cinéma français, après qui je cours depuis des mois pour qu'il vienne à la maison. J'ai déjà révélation. Un garçon. Et à chaque fois, il me dit ok, je viens. Donc là, par exemple, il m'avait dit « Ok, je viens vendredi dans l'hebdo Étienne, n'importe quoi. » Et je lui dis « Non, on va faire une rencontre Étienne. Il faut une émission rien que pour toi parce que vraiment, c'était trop énorme que tu viennes à la maison. » Et je lui dis « Viens pas vendredi. Viens samedi. » Et donc, alors qu'il m'avait dit « Oui pour vendredi. » Et il me refait le coup à chaque fois et il répond pas. Voilà. Et je lui dis il y aura des macarons Picard, il y aura du champomis, je passerai l'aspirateur, ce sera du voilà. Et à chaque fois, il me dit oui. Et puis voilà, SMS, DM, et il me dit ouais, c'est let's go. Et puis en fait, il vient pas. Pff, ouais. Pourtant, je mets les petits plats dans les grands. Hein. Ouais, je suis déçu. Non, c'est pas Pierre Ninet. Et non. Ouais, je suis déçu. Je suis triste. Alors, je l'aime bien pourtant. Ce comédien, tu t'es pas... Oui, il y a Guix qui dit, mais t'es pas interdit de stream le samedi, toi? Avec Hélène, t'as pas demandé de plus streamer le samedi en échange de la privatisation de la salle à manger pour l'hebdo Étienne du vendredi soir? Oui, c'est vrai. Sauf Grande Star. Voilà. J'ai le droit au stream du samedi soir pour les grands invités. Alexandre Astier, j'adore aussi. On a été en contact d'ailleurs à un moment, à mes débuts sur Twitch, mais bon, comme il a déjà reçu dans Popcorn et tout, je me dis que vous allez me dire ah oui, mais on a déjà vu chez Popcorn et tout ça. Donc voilà. Donc c'est pas Astier. Voilà. Haha. Bon, les amis, je me suis régalé ce matin. Merci à tous ceux qui étaient là ce matin. Merci à tous ceux qui ont soutenu, qui ont envoyé des subs, des beats, comme Casquette Verte à l'instant. Merci mon ami pour le 3e mois d'abonnement, comme Whiskarol tout à l'heure, 6e mois d'abonnement, comme Ventilateur Numérique. Je t'ai vu avec ton Prime tout à l'heure. Merci comme Silvirus34 pour le 12e mois d'abonnement. Je vous embrasse très fort. On va faire un petit raid maintenant. On le fait systématiquement ici. On profite du fait qu'il y a un petit peu de monde pour éclairer le travail des autres streamers, des nôtres streameuses. Voilà. Plutôt des gens qui n'ont pas encore trop de viewers pour leur faire la publicité. Les raids de ces derniers jours étaient vraiment sympas. Merci encore pour ce matin. Je vous retrouve à partir de 19h, je crois, sur la chaîne Twitch de Monsieur Poulpe. Ce soir, je vous retrouve à partir de 11h demain sur ma chaîne Twitch depuis la maison de la radio pour Demain le sport, un événement, l'équipe France Télévisions et France Info avec plein de grands champions pour réfléchir au sport de demain. Ça va être un stream de 11h à 16h30, ça va être un énorme stream avec plein d'invités. enfin que je remplisse mes thermos de café, voilà, et on se donne rendez-vous. Donc ça c'est quand, c'est jeudi, vendredi matin je pars dans une ville avec Joe pour bosser sur un stream de musée, donc vous ne me verrez pas vendredi matin, vendredi soir l'hebdo Étienne bien sûr, samedi on se repose, dimanche matin un petit stream. Allez, on fait comme d'habitude, vous me proposez maintenant des destinations de raid. Voilà, restez avec nous, c'est toujours un moment sympa, humainement, de voir, de découvrir le travail de quelqu'un d'autre. Voilà. Je vous mets 2 minutes de musique, pas une seconde de plus, 2 minutes de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, et on raid ensemble dans 2 minutes. Restez, restez, restez. A tout de suite, bande de beaux gosses. Allez, on va où ? Ok, j'ai trouvé, c'était très 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 difficile de choisir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, vous m'avez proposé parfois des streamers que je connais très très bien, des streamers pour les avoir déjà, Red, Hugues par exemple, Martin, mon DJ préféré, mais qui était en fin de, je suis allé voir, mais qui était en fin de stream, qui était en train de Red lui-même. Il était en train de se promener à Paris, je pense, sur les Champs-Élysées, notre DJ préféré, donc du coup, c'était pas cool. Il y a des gens que j'aime beaucoup, comme Nini qui est au Japon, mais que je raide déjà souvent, puis c'est déjà des grosses communes, même si on retournera les voir. Voilà, j'ai pas vu Trafalgar était en live. Voilà. Mais là, voilà, j'ai vu, voilà, je cherchais plutôt mon mari, je l'ai raid il n'y a pas longtemps, Marie Palot. Donc là, je cherchais quelque chose que j'avais jamais raid. Je crois que c'est le cas. Le nom de la chaîne est intriguant, ce que ce jeune homme est en train de faire aussi. Voilà. Donc découvrez, ça a l'air sympa. En tout cas, vous êtes plusieurs à me l'avoir conseillé et ça a l'air cool, le raid. Pardon, quelques secondes. Tac, ça part là. Ça part, dans... ouais, c'est en train de charger. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Passez une belle journée. Je vous retrouve ce soir chez Poulpe à 19h. Et on se retrouve demain de 11h à 16h30 sur ma chaîne pour parler de sport depuis la maison de la radio. Ça va être une folie. On va sur une chaîne qui s'appelle Déchetterie. Et ça a l'air sympa. Bonne journée. À très vite. Ciao, ciao. Et merci pour ce matin, je me suis régalé.